Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu peux te rattraper.
Défaite en J1 sur une équipe à 10 qui s'est recroquée.
Exactement. Pour le coup, tu mets dans mon moulin.
Fabrice, autre chose à rajouter ?
Non. Je suis arbitre officiel, donc justement à l'after, je trouve que ça manque un peu d'expertise arbitrale. Vous parlez un peu des règles, elles sont pas vraiment maîtrisées des fois.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, Génération After comme tous les soirs, RMC 20h-22h, à la radio, à la télé, vous le savez, sur After Foot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Le chat est ouvert, vos commentaires, vous connaissez le chemin. Avec ce soir, Elton Mokolo, salut Elton.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Qui frétille à quoi maintenant, une semaine du mondial?
Exactement, là je suis dans ma Coupe du Monde.
6 jours.
Exactement,
6
jours. Je suis prêt.
Quel est le premier match que tu attends, le plus important là? Bon, toi on sait, hein, c'est la RDC, mais avant ça, ton petit biscuit Brésil-Maroc.
Il y a Brésil-Maroc, il y a aussi le Côte d'Ivoire-Équateur qui m'intéresse énormément. Sûr. C'est deux outsiders qui sont très intéressants.
Fabrice Hawkins, c'est là également. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Qui sera avec l'équipe de France. Voilà, lui, son actualité, ce sera la côte Est,
le blanc-rouge.
Boston, New York, Philadelphie, c'est ça?
Exactement, peut-être Dallas.
Peut-être Dallas. Oui, t'as raison, c'est ça, quoi. Parce que si ils font premier du groupe,
ils jouent le 16e à New York.
Il reste, voilà, c'est ça.
Et c'est là où il est fort, il a déjà tout prévu. Il a déjà la marque.
Tout le monde le sait, calme-toi, enfin, doucement.
Non, moi je ne savais pas.
C'est pas une info exclusive du Faucon.
Tout le monde connaît
le planning éventuel de l'équipe de France. Et événement ce soir dans Génération After, nous accueillons la nouvelle voix de l'After, sa première ce soir. Il est avec nous, Adem Djouadi. Salut Adem.
Bonsoir à tous.
Salut Adem, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir dans la bande de l'After, la famille de l'After, Génération l'After.
Merci les gars, très très content d'être là, passer de l'autre côté, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, faut y rester.
Exactement, le plus dur commence. On t'a mis deux lames aiguisées ce soir, Fabrice et Elton. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu prendre Walid plein fer pour ta première dans l'After.
Ça ne serait tardé.
Ou Daniel.
Ça ne serait tardé.
Mardi soir, ce sera le cas.
Ouais, mardi soir.
Voilà, je rappelle que tu as participé à la grande aventure, nouvelle voix de l'After, 3500 candidats. Et tu as été l'heureux élu après quart de finale, demi-finale.
Une vidéo envoyée. Ça a duré plus de deux mois.
Exactement.
3500, c'est un concours de grande école.
Tu nous as. Ah oui, carrément. Tu nous as convaincus. Maintenant, j'espère qu'on a raison de te faire confiance.
Bien sûr,
ça commence maintenant. T'es avec nous pendant les deuxièmes matchs dans Génération After. Je salue aussi les trois finalistes qui nous écoutent peut-être, Laszlo, Rota et Charles. Et je précise également que le dernier épisode de la finale est en ligne sur YouTube et sur Spotify pour l'audio et sur la plateforme RMC Sport. Depuis 18h, allez-y, la version montée sur 40 minutes avec les coulisses, Daniel, Gilbert, en régie notamment. Allez-y, c'est en ligne depuis 18h.
Au passage, Nico,
ouais.
La tenue. Pas mal.
Ah bien, on est d'accord,
ouais,
tu valides.
Ouais,
le costume en lin vert, ça va,
c'est magnifique. J'aime bien la couleur.
Merci, j'ai pas compris les critiques. Alors ce soir dans Génération After, on va évoquer la défaite de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle remet en cause le nouveau système Deschamps avec ses quatre attaquants devant, ce 4-2-3-1? On va parler, c'est le grand débat du jour, de Ryan Cherki, meilleur bleu hier pour beaucoup. Doit-il être plus qu'un joker sur ce mondial? Est-ce que Deschamps osera franchir le pas? Avi Delton également. Attention, il s'expose, j'ai peur de la Mbappé dépendance. Tu parles de but, tu parles d'efficacité. 21h, Fabrice, tu viens aussi avec tes infos PSG. Quel mercato pour Paris? On parlera notamment de l'avenir de Bradley Barcola, des jeunes parisiens, Kanginli notamment aussi, Gonçalo Ramos au programme. Et puis, Florentino Pérez annonce un joueur à 150 millions d'euros au Real s'il est réélu. Quoi qu'il arrive, de qui parle-t-il? Michael Olise? Certainement, dit la presse espagnole. Et puis on évoquera également son concurrent, le candidat Enrique Riquelme, qui annonce lui carrément Haaland et Rodri en cas d'élection. Si je suis élu, ils arriveront au Real. C'est un délire. On va raconter ça parce que c'est un cirque absolu. C'est plus fort encore qu'une élection américaine. On sera avec Thibaut Leplat, notre ami afterien en direct de Madrid. Et puis à 22h, l'after avec Karine Galli. Salut Karine.
Salut.
À le micro, s'il vous plaît.
C'est pas le bon. Vas-y. Salut tout le monde, je suis très perturbée parce que notre nouvelle voix de l'after, c'est le sosie de Hissam Chebak. Je sais pas si vous vous souvenez de lui.
Qui ça?
Hissam Chebak était un latéral droit, notamment au Havre. C'est des années Ligue 2, mes meilleures années.
On va regarder.
Et bien tu ressembles.
Alors attention, on va vérifier.
Il y a un truc.
Il y a quelque chose.
On va voir.
Il y a un truc.
Je vais regarder ça.
C'est un très bon arrière droit qui est toujours en activité d'ailleurs.
J'ai une meilleure coupe de cheveux quand même.
Il en a fait plusieurs.
Sur la photo,
il y a un truc.
Fabrice, tu valides ou pas?
Franchement,
ouais.
Oui.
Ouais. Quel cassé. Voilà. Il joue en Turquie maintenant. Donc,
il joue dans quel club?
Comment?
Dans quel club en Turquie?
En Turquie. Alors là, je t'avoue, moi, je l'ai connu au Havre. Je sais qu'il est en Turquie. J'ai pas toutes les infos là sur le bout des doigts, mais je pense que Fabrice, qui est en train de regarder, va pouvoir nous dire ça dans quelques secondes. Sinon, tu veux peut-être le programme de soir. Magnifique. Eh bien, nous allons avoir un invité. C'est Saïd Chaban, le boss évidemment du SCO d'Angers. Pourquoi? Parce que Angers dans l'actualité. Il y a évidemment le départ de Dujeu. Il va nous dire qui est dans la shortlist pour remplacer Dujeu. On va parler également du choix du gardien, parce que tu le sais, ils n'ont pas pu garder Kofi. Il coûtait beaucoup trop cher. Lens est gourmand. C'est normal, c'était l'un des tout meilleurs gardiens de cette saison. Et donc, c'est Anthony Lopez qui sera dans les cages. On va parler avec lui aussi de la situation du foot français. Plus petit budget de Ligue 1, et pourtant, ils font du super travail. On reviendra aussi sur les Bleus, bien évidemment, parce que Deschamps, la défaite plus l'excès de confiance, il déteste. Donc, est-ce qu'il va faire des changements? Et puis, par rapport à ces changements aussi d'entraîneur, il y a une valse incroyable. Est-ce que ça vous plaît? Qui vous avez envie de voir dans quel club? Parce qu'il y a encore beaucoup de postes à pourvoir. Et puis, on sera également avec Julien Laurence, J-1 avant le match contre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Et on sait que Thomas Tuchel est un petit peu sur le grill parce qu'il a fait des choix dans sa sélection. Donc, il a intérêt de faire une très bonne Coupe du Monde. Voilà
l'after
pour le programme.
Avec Karine Galli des 22h, soyez au rendez-vous comme tous les soirs jusqu'à minuit. À tout à l'heure, Karine. C'est à parti pour Génération After. Alors, c'est bien d'avoir Fabrice ce soir, lendemain de match. T'étais à la Beaujoire hier, Fabrice. Alors, globalement, est-ce que cette défaite draine quelques inquiétudes chez vous qui nous écoutez? 32-16 ouvert, vous le savez. Venez en parler avec nous. Fabrice, est-ce que elle a chatouillé un peu le staff technique et les joueurs de l'équipe de France, cette défaite à moins de 10 jours, à un peu plus de 10 jours de l'entrée en lice de l'équipe de France?
On les a entendus, hein, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et notamment Didier Deschamps. Forcément, ça n'a pas fait plaisir. Après, est-ce que ça a catastrophé les joueurs et le staff? Non, mais c'est une piqûre de rappel quand même. C'est pas vrai de dire qu'ils s'en foutent, par exemple. C'est des choses que j'ai entendues. Ils n'en ont rien à faire. C'est qu'un match amical. Non, parce que Didier Deschamps, avant une grande compétition, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, il n'avait jamais perdu un match amical. Et surtout ce match-là, à la maison, à la Beaujoire, là où il a été formé à Nantes, il aurait aimé avoir une meilleure sortie. Et bah, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et ils espèrent, en tout cas, sur ce match contre l'Irlande du Nord, montrer un bien meilleur visage et surtout gagner. Parce que même si ce sont des matchs amicaux, pour la confiance, ça compte toujours.
Turnover lundi soir ou là il part sur une équipe type?
Il va partir sur une équipe qui se rapproche beaucoup plus de celle qui va jouer le 16 juin prochain contre le Sénégal.
Les Parisiens devraient démarrer, Doué, Dembélé.
A priori, moi en tout cas les infos que j'ai encore une fois, c'est que autant, et c'était prévu bien en avance, enfin on en parlait même avec Jean-Louis avec qui j'ai commenté le match sur cette rencontre, ils voulaient faire tourner, voir le plus de joueurs possible, gérer les temps de jeu aussi par rapport à ceux qui ont joué plus ou moins sur les dernières rencontres. Autant sur ce match face à l'Irlande du Nord lundi prochain, il va mettre une équipe qui se rapproche vraiment de celle qu'il veut voir jouer sur les premiers matchs de Coupe du Monde.
Alors c'est intéressant, il va certainement aligner encore une fois ce système, ce 4-2-3-1 avec 3-4 éléments offensifs. C'est pas le nouveau Deschamps, ça fait quelques mois qu'il le met en place tout de même. La grande question, c'est est-ce qu'il va tenir pendant ce mondial? Il a souvent rétro-pédalé au fur et à mesure d'une compétition, d'un Euro, d'une Coupe du Monde. Est-ce que cette défaite, eh bien, doit changer la réflexion de Deschamps avec ses quatre attaquants? Elton, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, on doit continuer là-dessus parce qu'on est dans un travail, on est dans un laboratoire du côté de Didier Deschamps. Et plus globalement, j'en ai assez. Ouais, j'en ai assez que, en fait, chaque défaite, chaque contre-performance, et il n'y en a pas eu très souvent du côté de l'équipe de France, soit un prétexte pour s'attaquer au système en ne regardant pas le contexte de la rencontre. Le contexte de la rencontre, c'est une équipe de France qui, en première période, avec l'équipe de France des quatre attaquants, a été plutôt convaincante. Il y a eu des occasions. Fofana a été le meilleur Ivoirien et c'était le gardien. Et en seconde période, il y a eu une érosion dans le jeu de l'équipe de France, mais c'est pas à cause des quatre attaquants. Et je vais même te dire quelque chose. Nous, on a un aspect qui est un peu nombriliste. C'est-à-dire, on ne regarde que nous-mêmes. Mais en deuxième période, que fait la Côte d'Ivoire? Ils arrivent aussi avec quatre attaquants et ils retournent le match de cette manière-là. Donc, manière de dire quoi? Est-ce que c'est le système qui est à remettre en cause? Je n'en suis pas persuadé. C'est surtout les interprètes et ce qu'ils font de la rencontre qui est beaucoup plus à remettre en cause.
Adem, qu'est-ce que
t'en penses? Non, pour moi, il faut pas donner plus d'importance que ce match n'en avait. C'était un premier match de préparation. C'est fait pour se préparer. Donc, si l'équipe de France n'est pas encore à point, pas encore à maturité, pas encore en pleine confiance, surtout que comme l'a très bien dit Fabrice, les Parisiens n'étaient pas là. Ils vont être là mardi prochain. Donc, je pense qu'il faut surtout pas tirer de conclusions hâtives. Maintenant, moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse le procès de ce 4-2-3-1 qu'on a tant réclamé pendant tant d'années. Maintenant qu'on l'a, que Didier Deschamps a enfin changé ses idées, on veut le changer à tous les matchs. On veut revenir au 4-3-3.
Si, on a besoin de se poser des questions quand même.
Mais amis, on anticipe le fait qu'il va changer, que dès que ça va mal
sur le déséquilibre potentiel possible.
J'ai l'impression qu'on est impatient que ça se passe mal en poule pour repasser à un 4-3-3 avec trois milieux de terrain travailleurs. Non, moi j'ai envie qu'on aille au bout dans cette Coupe du Monde, qu'on soit vainqueur ou qu'on sorte en barrage avec ces quatre attaquants, avec cette idée. Et je pense que Deschamps, de toute façon, mourra avec cette idée.
Moi, Nico, encore une fois, j'aime pas ce lien de cause à effet. En gros, on perd, c'est parce qu'il y a les quatre attaquants. Non, le match s'explique d'une autre manière, à savoir que pour moi, il y a un standard technique qui a été trop décevant par moment, notamment sur la seconde période. Les latéraux qui n'ont pas été forcément performants, et ça, c'est pas le seul fait des quatre attaquants. C'est tout un système au global à repenser, enfin tout du moins sur cette rencontre.
Alors, en revanche, il y a un phénomène intéressant, encore une fois, énorme permutation sur le front de l'attaque, Fabrice, avec un Marcus Thuram qui a passé à peu près la moitié de sa première période en neuf, quasiment,
en numéro 9,
avec un Mbappé qui tournait autour, surtout côté gauche, ce que beaucoup réclament, d'avoir un Mbappé sur un côté, ou là où il serait plus efficace, dans une position plus naturelle. Est-ce que ça... Bon, je pense que Deschamps leur donne une liberté, Fabrice. On est d'accord.
Totalement, et la même qui conférence de presse. Totalement. Que ce soit Mbappé, celui qui joue à gauche, ou alors le numéro 10 qui sera sans doute Michael Olise avec Ousmane Dembélé.
Donc ça veut dire que le débat qu'on a longtemps fait, Mbappé n'est pas un neuf, Mbappé ne doit pas jouer en neuf, n'existe plus réellement. Désormais, c'est beaucoup plus complexe, nuancé que ça. C'est-à-dire que.
Ouais, exactement. C'est beaucoup plus complexe. Et on l'a vu d'ailleurs sur le match contre le Brésil, souvenez-vous, au mois de mars, où Hugo Ekitike jouait dans cette position-là, à gauche, et il permutait souvent avec Kylian Mbappé pour se retrouver en numéro 9, ce qui laissait le couloir à Mbappé. D'ailleurs, je pense que si Kitike n'était pas blessé, c'est lui qui aurait été titulaire. Mais c'est vrai que je pense que ce débat va moins se poser. Et après, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que si ça gagne, ce sera formidable. Si ça perd, on va se dire, mais est-ce que le fait que Kylian Mbappé dézone et à chaque fois reprenne le couloir, est-ce que ça déséquilibre pas et il met un petit peu plus de temps, Marcus Thuram, peut-être à se replacer pour défendre, et on va forcément chercher la petite bête si jamais ça se passe mal.
Mais moi, je vais aller encore plus loin, Nico. Moi, on parle de permutation. Donc, il y a 50% du temps où quand même Kylian Mbappé, grosso modo, dans l'axe. Moi, je voudrais qu'il soit à 100% du temps sur son couloir gauche, là où il est le meilleur, le plus percutant, le plus dangereux. Parce que quand il est dans l'axe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où il parasite l'axe, où il décroche sans vraiment amener de défenseur avec lui, où il ne crée pas grand chose. Moi, j'aimerais qu'on prenne le parti de se dire Kylian Mbappé, là où il est le meilleur, c'est à gauche. Tu portes le maillot de l'équipe de France, donc tu dois courir pour l'équipe de France. Je ne comprends pas pourquoi on s'adapte au joueur.
Tu crois encore, Adem, à ça, franchement, il va avoir 28 ans cette année, tu penses qu'il va faire les efforts défensifs?
Moi, je refuse de me plier à l'idée que les joueurs sont au-dessus du blason et que Kylian Mbappé, Michael Olise ou Dembélé ne peut pas courir pour défendre et gagner une troisième.
Encore une fois, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, on le regarde avec les yeux de 2022, mais on est en 2026. Encore une fois, sa réalité d'ailier gauche n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est beaucoup plus dans l'idée d'emprunter des zones davantage axiales, d'être un joueur qui se veut, qui a évolué avec le temps et qui, en ce sens, évolue en tant que tel. Moi, hier, par exemple, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Enfin, j'ai aimé notamment Kylian Mbappé qui était capable d'emprunter plusieurs zones. Il y a eu cette complicité avec Ryan Cherki que j'ai bien aimé. L'enfermer dans ce côté gauche aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit profitable et à Kylian Mbappé et à l'équipe de France.
Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que quelque part, ce qu'on a vu hier peut offrir une chance presque inespérée à Marcus Thuram dans ce système-là, Fabrice? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, est-ce qu'il peut incarner une sorte de pivot un peu flottant, certes, non, mais pivot quand même, avec Mbappé autour?
Ta question est très intéressante parce que, encore une fois, c'est, je pense aussi, la logique qui a amené Didier Deschamps à titulariser Hugo Ekitike sur le couloir à gauche, c'est qu'il se dit... Quand il n'y est pas, il est devant. Donc c'est intéressant parce que j'ai un attaquant de métier dans la surface de préparation. Oui. Mais je pense que sur les très gros matchs, quand ils vont arriver en huitième, quand ils vont arriver en quart, en demi, on l'espère, je pense que de toute façon, Kylian Mbappé va se retrouver dans une position axiale parce que à gauche, qu'on le veuille ou non, il faut faire des replis défensifs et des vrais replis défensifs. Il faut défendre pour de vrai, sans rigoler. Et il n'est pas pour l'instant en mesure, en capacité de le faire, Kylian Mbappé. Donc on l'a vu, quand il porte le maillot de l'équipe de France, de temps en temps, on le voit. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, il défend, il fait le petit pas qu'il faisait peut-être pas avant. Donc ça, je trouve que c'est vachement positif. C'est vrai. Mais vraiment.
Et le petit pas qu'il faisait pas avant.
Mais c'est la réalité. Mais défendre à fond,
c'est pas dans son ADN. Les gars, quand même. Moi, je comprends pas qu'on soit là aujourd'hui à se demander, bon, qui va courir pour Kylian Mbappé? On voit bien qu'aujourd'hui, les équipes qui gagnent, ce sont des équipes où le collectif est au centre de tout, où il n'y a plus ces superstars. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est passé de mode.
Adem, t'as vu, totalement d'accord avec toi. Messi, champion du monde, en
2022,
c'est qu'il y avait 2028,
Nico. C'est passé de mode, je trouve.
Oui, mais il y a 4 ans, c'est déjà le même football, non?
T'en avais 10 qui couraient pour Messi. Je pense pas qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, quand tu as un ballon d'or, un Michael Olise, des joueurs comme ça, avec cet égo-là, qui aujourd'hui sont sûrement plus légitimes sportivement que Kylian Mbappé, veuillent courir pour lui. Je ne pense pas.
Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé.
Attends, plus légitimes sportivement, c'est intéressant.
Sur les deux dernières saisons, en club en tout cas, sportivement,
la légitimité de la. Oui, mais en club.
Tu penses vraiment que Michael Olise et Ousmane Dembélé, quand rentrent chez eux le soir, ils vont se dire demain je vais courir pour Kylian Mbappé.
Non, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça, mais de la même manière, ils se disent pas Kylian Mbappé n'a pas de légitimité en équipe de France.
C'est, non, c'est leur capitaine. Non.
Il a été depuis qu'il est en équipe de France et notamment sur les grosses compétitions et de surcroît en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, on sait ce qu'il a été pour l'équipe de France et de toute façon dans les consciences, il le reste toujours un petit peu, même quand on échange avec les joueurs de l'équipe de France, personne lui fait allégeance. Et là, tu as tout à fait raison, hein, Adem.
Ça c'est intéressant.
Par contre, ils savent qu'ils ont plus de chances de gagner qu'avec lui parce que c'est leur réalité.
Avec lui.
En conférence de presse, dès que Dembélé peut rappeler qu'il faut courir pour l'équipe, dès que tu vois qu'un joueur en interview, il lui met une petite piqûre de rappel. Il y a des messages subliminaux qui sont passés de semaine après semaine pour lui expliquer si on veut la gagner avec toi, il va falloir que tu cours quand même.
Bien sûr, mais de toute façon, la réalité de Kylian Mbappé, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe de France gagne, qui court pas, ça va pas être un débat. En revanche, si effectivement il fait beaucoup moins que les autres et que l'équipe de France perd, là ça va devenir un problème et ça l'a été en 2024.
Après, attention à ne pas s'enfermer notamment autour du sujet de Kylian Mbappé parce que factuellement, la seconde période, Kylian Mbappé n'est pas là. Et c'est précisément là où l'équipe de France chute footballistiquement. Je veux dire, il y a eu des remplaçants comme Mateta, Marcus Thuram était encore aligné, Kylian Mbappé était sur le banc de touche. Et c'est précisément là où l'équipe de France a été moins forte. Et précisément là où la Côte d'Ivoire a été supérieure. Donc ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, il faut avoir une perspective collective. Comment l'équipe de France attaque? Ça, c'est ce qui m'intéresse. On a la volonté d'avoir une équipe qui est liquide, une équipe qui est fluide, une équipe où il y a beaucoup de permutations, de rotations. Il faut avoir les moyens de ses ambitions avec les meilleurs interprètes. Est-ce qu'on a les meilleurs interprètes à l'instant T? Telle est la question.
Bon, la mi-temps se passe moins bien que la première parce qu'il y a 5 remplacements dès la mi-temps. Il y en a 10 au total.
Enfin, Nico,
Parce que Emers Faye réajuste, ouais. Il a fait des choix.
Bah oui.
Très critiqué, je peux vous le dire, en Côte d'Ivoire, notamment ce duo Kessié Fofana. Il a mis de la créativité en deuxième période avec Christina Olaï notamment, avec ton micro aussi. Pourquoi pas?
Nicolas Pépé a pas dit allô,
exactement,
pardon.
C'est ce que tout le peuple réclame. On parlera de la Côte d'Ivoire. Hein,
mais c'est ajusté aussi, hein, juste petite parenthèse. Mais lui aussi, il a fait en fonction des états de forme, de ceux qui avaient plus ou moins joué sur les derniers jours, pour échanger avec certains joueurs, même de la Côte d'Ivoire après le match. Ils sont conscients de ça. Hein, c'est pas l'équipe type qui a démarré. Ils le savent très bien du côté de la Côte d'Ivoire.
Attention, on a l'avis du soir, Signalton Mokolo, concerne Kylian Mbappé. T'as commencé à en parler. C'est une magnifique transition. Attention à la Mbappé dépendance. Jingle Elton.
J'ai écouté Kevin De Bruyne dans Zone Mix.
Ah ouais, en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Ah oui, un petit, bon petit repassage, effectivement, Elton.
C'était quand ça? C'était l'année dernière.
C'est vieux, c'est avec Nico Villas, on connaît la voix de Nico.
Bon, salut Nico.
Ton avis, attention, Fabrice, t'as ton coin du bois là.
Pourquoi je suis allé notamment sur la Kylian Mbappé dépendance, notamment face au but? C'est parce que ça va être un enjeu, parce qu'on met en avant les qualités, la diversité offensive du côté de l'équipe de France, mais c'est toujours notamment conditionné par quelque chose qui va être très important et qui va nous accompagner sur la Coupe du Monde, cette capacité à marquer, parce que aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de France et notamment son secteur offensif, on regarde avec le prisme club. J'entends bien que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit Michael Olise, que ce soit Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on regarde ça avec le prisme équipe de France et la difficulté d'impacter, de marquer, notamment en termes de sélection. Et là, quand tu regardes notamment le cycle des matchs de l'équipe de France, il y en a eu 9 sur cette saison 2025-2026, en attendant le 10e contre l'Irlande du Nord et plus sur la Coupe du Monde des clubs. On s'aperçoit que sur le plan factuel, sur le plan chiffré, Kylian Mbappé est au-dessus et que le deuxième meilleur buteur, c'est Désiré Doué avec 3 buts. Et quand tu regardes notamment
Mbappé 6 buts, je crois. Hein,
Mbappé 6 buts. Ouais. Et quand tu regardes en chiffre absolu, Mbappé, bien évidemment, il est proche du record d'Olivier Giroud. Il pourrait le battre contre l'Irlande du Nord, mais tu t'aperçois que le second meilleur buteur s'appelle Ousmane Dembélé, accompagné d'Adrien Rabiot. Donc moi, j'ai peur notamment d'avoir cette Mbappé dépendance qui puisse s'exprimer notamment sur la phase éliminatoire ou de la Coupe du Monde, où à partir du moment où on arrive justement à localiser la problématique Mbappé, on arrive à l'enfermer, qui va prendre le relais? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que on a bien vu que sur le côté gauche, avec ce neuf qui est déguisé en tant qu'ailier, c'était critiqué contre le Brésil, c'est Marcus Thuram. Il faudra voir ce que va inventer Didier Deschamps. Est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions pour justement avoir une alternative à Kylian Mbappé? Ça, c'est mon inquiétude quand on parle d'équipe de France, parce que quand on parle de secteur offensif, quand on parle d'animation offensive, moi, je pense que Didier Deschamps, depuis la fin de Euro 2024, il ne parle pas forcément de Kylian Mbappé dépendance. Didier Deschamps, il a évolué sur cette question, parce que déjà, sur l'Euro 2024, on avait vu la limite de la BAPE dépendance, ce qui avait amené justement à ouvrir le champ des possibles et à démarrer la campagne suivante avec les quatre attaquants. Et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des joueurs qui vont pouvoir assumer ça sur le plan chiffré? Ça, c'est ma question. Donc c'est pour ça que moi je dis, hier on a eu un Kylian Mbappé qui était là, qui a eu une occasion, d'ailleurs Fofana l'a repoussé, mais derrière qui a été en capacité d'impacter Ryan Cherki, très bien, mais ça n'a pas vocation à être seulement Ryan Cherki, il faut d'autres joueurs qui puissent justement s'épanouir et impacter du côté de l'équipe de France.
Voilà pour l'avis d'Elton, vous pouvez réagir au 32-16. Adem, est-ce que tu es d'accord avec Elton?
Non, moi je ne vais pas être d'accord avec l'avis d'Elton, tout simplement parce qu'on a été en demi-finale de l'Euro il y a deux ans où Mbappé ne met pas un seul but dans le jeu, donc il y a eu d'autres joueurs. À l'époque c'était Ronald Colomani, le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024. On a un Michael Olysee qui sur la dernière année a mis quand même 4 buts en équipe de France. Quand tu prends les deux matchs les plus importants dernièrement sur les deux dernières années depuis l'Euro de l'équipe de France, le fameux match contre la Croatie où il met en place le 4-2-3-1, les buteurs sont Dembélé et Olysee. Contre l'Espagne où on met 4 buts, Mbappé met un penalty mais ne met aucun but dans le jeu. Donc au final cette équipe de France n'est pas Mbappé dépendante selon moi. Et quand tu as autant de force en présence, alors oui c'est un club, mais on va pas revenir sur des précédés de la Coupe du Monde 2022. C'était il y a 4 ans maintenant. Michael Olysee n'était pas à ce niveau là. Donc moi je pense qu'il faut se baser sur la forme actuelle. Et aujourd'hui je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on n'est pas à plaindre sur les coéquipiers de Kylian Mbappé.
Adem, il faut mettre du contexte parce que qualification à l'Euro 2000, c'est en mettant 0 but dans le jeu, c'est un CSC contre la Belgique.
En 2024, tu veux dire.
Ouais, en 2024, c'est le quart de finale où tu fais 0-0 contre le Portugal et tu t'imposes au tir au but. T'as évoqué l'Espagne, les trois autres buts interviennent après le fait que justement l'Espagne mène 5-1. Donc ce que je veux dire par là, quand je parle de Mbappé dépendance, faut justement être en capacité de faire le plus dur, débloquer un score.
Dis-moi que le danger arrive de partout. Avec
oui, mais attention.
Celui qui apporte le danger contre l'Espagne, c'est Ryan Cherki.
T'as un bruit qui a 3 buts quand même.
Nico, il y a marqué et marqué. Moi, je n'oublie pas le contexte. C'est-à-dire, ouvrir le score, ce n'est pas la même chose que de marquer à 5-1.
Ok.
Non, moi, je pense que t'es. En fait, je vois l'analyse.
Dans ce concept, parce qu'il est réel, je ne le partage pas.
C'est-à-dire que.
En tout cas, il le voit.
Que Kylian Mbappé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le momentum, effectivement, Kylian Mbappé, c'est celui qui est plus à même de faire la différence. Mais parce qu'il aspire les ballons, parce qu'il représente aussi et sans doute parce qu'il est aussi présent dans la zone de finition le plus souvent. Mais après, quand on voit la richesse de l'équipe de France aujourd'hui, Adem a cité tout à l'heure les exemples et les buts qu'ont marqué ses coéquipiers sur les dernières sélections. Moi, j'ai vraiment aucune forme d'inquiétude. Quand on voit qu'il y a un Ryan Cherki encore hier qui a fait ce qu'il a fait, même dans le jeu, la proposition qu'il nous fait, c'est vraiment exceptionnel. On en reparlera tout à l'heure. Quand on voit Michael Olysee, quand on voit Ousmane Dembélé depuis le début de la saison, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il a pris beaucoup de confiance. Je trouve qu'il est meilleur. Je trouve qu'il fait jouer les autres. C'est des joueurs qui, à mon sens, vont faire la différence à un moment ou à un autre si Kylian Mbappé est un petit peu moins bien dans une rencontre.
Moi, j'entends bien et moi, je suis bête et appliqué dans ces moments-là. Je regarde les derniers matchs de l'équipe de France et je vois un dénominateur commun, celui qui ouvre très souvent le score. Il s'appelle Kylian Mbappé.
Contre qui, Elton?
Ouais, mais contre qui? Justement,
que moi, ce soit par exemple de l'Euro 2024 où il met pas un seul but dans le jeu, la dernière grande compétition officielle. Là, on va parler de matchs contre l'Ouzbékistan, des matchs comme ça sans enjeu. Moi, je t'ai pris les deux matchs qui nous ont fait un petit peu vibrer depuis l'Euro. Le quart de finale contre la Croatie.
Qui se traduit par
des buts d'Olysee et Dembélé.
Et qui se traduit par quoi au final?
Par une victoire de l'équipe de France sans but de Mbappé.
Quand ça?
Contre la Croatie, par exemple.
Contre la Croatie et derrière.
Donc attends, le match le plus en jeu, en tout cas celui où l'équipe de France était vraiment au dos au mur en termes de jeu, on était proche du néant. Ouais. Ce n'est pas Mbappé qui a mené la révolution à bien, c'était Michael Olysee et Dembélé. En tout cas, en statistique.
Ça avait été l'un des meilleurs aussi.
D'accord, mais il a pas marqué.
Oui, il a pas marqué, mais ce que je veux dire par là, c'est l'exception qui pour l'instant confirme la règle.
Non, je t'ai parlé de l'Espagne aussi. Il y a eu 4 buts marqués. Ouais, il a pas mis un quadruplé. À partir du moment où il y a pas un quadruplé, il y a pas de dépendance à Mbappé. Bon. Sur ce match-là.
On va faire une pause. Dans un instant, Souleymane sera avec nous 32-16 pour nous dire comment il veut voir Mbappé dans le 11 de Deschamps. Reste avec nous et puis on va parler de Ryan Cherki. Bien sûr, c'est un peu le sujet du jour. C'est le sujet d'hier soir après le match qu'on a développé dans l'after avec Daniel. Vous êtes très nombreux à vouloir absolument l'intégrer au 11 de l'équipe de France. C'est vrai de nous dire si c'est une réalité possible ou pas. Dans ce système en 4-2-3-1. Vous écoutez RMC Génération After, Elton Mokolo est là, Adem Djouadi et Fabrice Hawkins. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After RMC, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez, avec Elton Mokolo, Fabrice Hawkins et Adem Djouadi qui est avec nous ce soir. Nouvelle voix de l'After, nouvelle voix dans l'After et dans Génération After qu'on accueille. Envoyez vos messages également, la force à Adem qui débarque son aventure avec, qui commence son aventure avec nous. Alors, on parlait de l'équipe de France, des quatre attaquants devant et forcément tous les chemins mènent à Kylian Mbappé. Tu as développé un avis, Elton. Et il y a Souleymane qui nous a appelé au 32-16 pour en parler. Salut Souleymane.
Salut toute l'équipe.
Salut, bienvenue dans Génération After.
Salut RMC, la meilleure radio.
Merci Souleymane.
C'est très bien.
Et tu as raison. On va monter le son un peu de Souleymane, s'il vous plaît, pour mieux l'entendre. Alors Souleymane, toi, tu veux parler du positionnement de Kylian Mbappé, quoi.
Oui.
Bon, t'écoutes.
Mbappé, je le mettrai en attaquant de pointe, en numéro 9, comme il joue au Real Madrid.
Et pourquoi?
Parce qu'il sera plus visible maintenant. Si on le laisse côté gauche, comme beaucoup de gens pensent ou le disent, il sera pas facile à marquer parce que c'est quand même Mbappé, mais il sera difficile à marquer quand il joue comme au Real Madrid, en pointe, en électron libre, comme le fait Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Donc il peut partir derrière, il peut décrocher, jouer. Et moi, je le fais en neuf, quoi.
Bon, de toute façon, franchement, le débat du 9 ou pas 9 n'existe plus vraiment désormais, quoi. C'est terminé.
Voilà. Oui,
on va arrêter avec ces débats finalement parce que.
On sait qu'il sera en 9, au final.
Oui, mais en même temps, il dézone énormément.
Non, c'est sûr. Mais la question, c'est jusqu'à quel point il peut dézoner sur les matchs en jeu, là où il y a une grosse pression et avec un couloir droit adverse de très haut niveau. Jusqu'à quel point il peut dézoner?
Non,
mais
c'est surtout que quand on regarde cette équipe de France et l'évolution de cette équipe, c'est que la notion de poste, elle est relative, c'est davantage les rôles qu'ils interprètent. J'écoutais Ousmane
jusqu'à récemment, quand t'étais neuf, hein. Giroud, il allait pas à gauche.
Non, mais mais justement, t'es en mutation, t'es en évolution. J'écoutais, notamment Ousmane Dembélé chez Rotten Sofum quand il disait que voilà, ils étaient beaucoup plus libres, ils avaient envie de permuter. Et moi, je compte beaucoup plus sur l'intelligence de ces joueurs pour être en capacité de permuter et d'impacter de différentes manières. Et hier, on a bien vu, il y a une relation technique entre Kylian Mbappé et Ryan Cherki, sans pour autant que ce soit un 9 et un 10.
Oui, mais ça, c'est pas du concret, Elton. On espère que ça va marcher. Ce dédoublement de facettes, Michael Olise au Bayern Munich, il mange la ligne à droite et c'est là où il est le meilleur. Moi, en numéro 10, c'est Michael Olise. On veut en faire un 10 en équipe de France pour prendre le relais d'Antoine Griezmann, mais pour moi, là où il est le meilleur, c'est quand il est à droite et qu'il peut rentrer enroulé sur le pied gauche. C'est là où je veux le voir. Alors que quand tu mets Michael Olise en 10, tu m'as parlé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, oui, c'est vrai, en équipe de France, a de la liberté. On l'a vu contre le Brésil, notamment il y a quelques mois. Mais moi, j'ai surtout vu un Ousmane Dembélé qui savait pas trop où se placer, qui était partout, et nulle part à la fois contre le Brésil. Et où vraiment vrai, là où ça. Il est le meilleur, c'est proche du but. Et sauf que en équipe de France, il est beaucoup trop loin du but.
Toi, tu préfères à droite, Olise, en équipe de France.
Bien sûr, à droite tous les jours.
Et donc tu fais quoi Dembélé
dans l'axe, peut-être parce que c'est là où il veut jouer aussi.
Dans l'idéal, c'est dans l'axe.
Dans l'axe derrière Mbappé.
Bah, il a dit à plusieurs reprises récemment, et il avait fait une blague. Je me souviens quand il avait reçu son trophée de meilleur joueur la saison passée à Didier Deschamps, en lui disant est-ce que tu regardes un petit peu comment me fait jouer Luis Enrique, l'air de dire je me sens quand même mieux dans l'axe. Moi, je pense que ça va être un débat de savoir.
Attends,
qui joue à droite,
poser un problème ou pas. Je te pose la question frontalement.
Non, je pense pas. Non, parce que en fait, encore une fois,
si ça tourne pas très bien. Tu vois ce que je veux dire? Si les prestations sont pas bonnes, si tu prends un point contre le Sénégal, si tu t'es chaotique contre l'Irak,
ils ont cette liberté de permuter. Et je pense pas que s'ils souhaitent jouer dans l'axe, Michael Olise va lui dire non, va à droite.
Alors ma question, Fabrice, c'est est-ce qu'ils risquent pas de se marcher un peu tous dessus finalement? Tu vois,
c'est la grande question.
À vouloir dézoner en permanence parce que ces mecs-là ne bossent pas ensemble.
Ça, c'est la principale difficulté. Après, bien sûr, encore une fois, je vous convoque devant les faits. Pour bien appuyer l'idée que la réalité club n'est pas forcément la réalité sélection. Hier, Michael Olise, il est lié droit. Et pour autant, on a vu le Michael Olise du Bayern. J'en suis pas persuadé. Tout ça pour expliquer que, à partir du moment où on est en sélection, à partir du moment où on a des joueurs qui sont extraordinaires, qui sont d'une certaine manière forcé de cohabiter ensemble, de trouver de nouvelles relations techniques, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, faut pas avoir forcément la focale club qui va forcément impacter ce qui se passe.
Moi, j'ai
section.
Pas de problème avec Michael Olise à droite ou dans l'axe, mais je pense que Ousmane Dembélé peut être beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant pour l'équipe de France dans l'axe et que ça ne dérangera pas Michael Olise. En tout cas, ça ne va pas baisser son rendement s'il joue à droite. Moi, c'est plus
au contraire. Moi,
c'est plus
dire.
Mettre les meilleures conditions le Ballon d'Or que le positionnement de Michael Olise.
tu vois, là on va entrer dans un cercle qui est vicieux, parce que en fait il faut mettre dans les meilleures conditions le capitaine de l'équipe de France, le ballon d'or, l'ailier droit du Bayern.
Mais à un moment donné, qui bloque tout ça?
Ouais, mais à un moment donné,
qui bloque tout ça?
Non, il va falloir accommoder
tout le monde. Ça,
mais personne bloque tout ça.
T'as failli le dire, regarde, ça commence à sortir.
Non, ça commence à sortir.
Tu t'es arrêté.
Personne ne bloque
tout ça.
Non, c'est faux.
Va à gauche,
c'est faux.
Dembélé il est en 9, Olise est là à droite, et Cherki il est en 10.
Non, c'est faux.
Mais la seule difficulté de ça, en fait, c'est que malheureusement, Kylian Mbappé, je pense pas qu'on le reverra à gauche, en tout cas en position de départ.
Et parce que sa réalité footballistique, elle a changé. Et moi, j'y crois pas au lien de cause à effet, en fait. Parce qu'il y a Kylian Mbappé, en fait, ça bloque tout le processus de l'équipe de France.
Tu as dit qu'il ne fallait pas se baser sur ce qui se passe en club. On est bien d'accord. La réalité de Kylian Mbappé en équipe de France, là où il a été le meilleur, c'est où?
C'est à gauche.
Donc pourquoi tu veux te baser sur la réalité du club depuis deux ans où il est neuf cette fois-ci?
Encore une fois, un joueur ça évolue. Un joueur, c'est
non, mais tu nous as expliqué qu'il fallait pas prendre en considération la réalité de club. Donc je te remets à ton avis, pardon. Pourquoi tu veux mettre Kylian Mbappé cette fois-ci dans l'axe en se basant sur ce qu'il fait en club depuis deux ans?
Parce que je pense que Kylian Mbappé il a fondamentalement beaucoup plus progressé en étant un joueur beaucoup plus axial, en empruntant beaucoup plus de zones. Elle est là la réalité. Et aujourd'hui enfermer Kylian Mbappé en ailier gauche, je pense personnellement, de manière très simple, c'est contre-productif.
Tu penses pas que le plus contre-productif pardon, dans l'histoire, c'est de déplacer le ballon d'or et Michael Olise à un autre poste qu'il ne maîtrise pas forcément?
Non, puisqu'ils sont capables de s'accommoder.
Qu'est-ce que tu en sais?
Ils sont capables de s'accommoder de ça. Et moi, je note que le match sur le Brésil, face au Brésil, Ousmane Dembélé, il a été justement pertinent, convaincant, dans un rôle justement beaucoup plus créateur. Tu l'as pas aimé, Ousmane Dembélé?
Honnêtement, non. Je l'ai trouvé beaucoup trop loin du but. Je l'ai trouvé faux numéro 8 par moment. Je l'ai trouvé beaucoup trop bas sur le terrain. J'ai trouvé que dans ses prises de décision, pardon, tout le monde c'était trop timoré,
et
trop timide.
C'est lui qui apporte les meilleures actions.
On parle d'un match où le Brésil a tiré plus que nous, un match où le Brésil est plus dégagé que nous. On a eu 4 tirs cadrés. D'accord, je veux bien, mais on a eu 4 tirs cadrés sur ce match. C'est la réalité du match contre le Brésil. On en fait des tonnes sur ce match.
On est sur un duel Elton. Adam, c'est pas mal. Fabrice, il est en face, il observe, il se marre
avec les popcorn.
C'est pas mal.
Non, mais tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui, du côté, c'est l'histoire du football de sélection. Je vais te dire l'Espagne 2010, la grande Espagne 2010. Je vais te montrer les positions. Un Xavi Hernandez, à un moment donné, était numéro 10. Andrés Iniesta était ailier gauche. C'était pas fondamentalement leur meilleur poste. Pour autant, ils étaient dans une équipe qui était une équipe de dingue. Ils étaient obligés de s'accommoder parce qu'on est dans une réalité de sélection.
Non, mais Fabrice, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on aimerait. Il y a la réalité de l'équipe de France aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais et ce que j'aurais souhaité depuis des années, c'est que Kylian Mbappé ne change pas de poste et qu'il continue à jouer à gauche, parce que c'est là où il m'a fait rêver, c'est là où j'ai kiffé, c'est là où je pense il a fait ses meilleurs matchs aussi en équipe de France, esthétiquement et peut-être même sur le plan comptable. Et ça, c'est ce que j'aurais aimé. Maintenant, la réalité, et d'ailleurs, quand vous discutez avec certaines personnes autour de l'équipe de France, même certains joueurs, vous leur demandez quel est votre 11 idéal, ils vous mettent tous Kylian Mbappé à gauche. Maintenant, la réalité de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé, c'est un numéro 9. Qu'il va jouer devant, comme il joue en club.
C'est que
malheureusement, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui dans le football de très haut niveau. Tu en parlais. Le foot a changé dans le football de très haut niveau aujourd'hui. Tout le monde doit faire les efforts. Et peut-être que Kylian Mbappé, il est moins enclin à les faire, mais il est tellement important pour l'équipe de France que Didier Deschamps accepte de faire certaines concessions pour lui. Et force est de constater que sur les dernières années, ces concessions-là ne lui ont pas donné tort. Parce que quand il est à 100%, Kylian Mbappé, il te fait gagner les matchs.
Moi, je pense que c'est un échec assuré si on a un joueur dans l'équipe qui ne court pas. Alors pourquoi on ne peut pas prévenir ce risque-là?
Adèle, je te pose la question, mais j'ai l'impression depuis le début que toi, tu créerais pas au scandale si on sortait Mbappé de l'équipe dans l'absolu.
Si venait une demi-heure, secouer
l'équipe de France simplement, voilà.
Mais pour moi, Kylian Mbappé, en tant que numéro 9 aujourd'hui, je préfère largement d'autres profils. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur extraordinaire à gauche. Pas en tant que numéro 9.
T'as un énorme plafond de verre si Kylian Mbappé est l'avancement de l'équipe de France.
Ah oui, pour moi, l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde avec Mbappé en numéro 9.
Adem, dans sa capacité d'élimination, par exemple, on adorait Kylian Mbappé il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours capable de faire ce qu'il faisait il y a quelques années?
Pour avoir la réponse, il faut que je le revoie à gauche.
Mais là, il a joué de temps en temps. On l'a vu à gauche.
Là où il était le plus dangereux hier. Je vous prends l'exemple d'hier contre la Côte d'Ivoire. Là où il était le plus dangereux, c'est quand il crochette sur le côté gauche, qu'il rentre sur le pied droit et qu'il essaye de rentrer dans l'axe.
Non, là où je l'ai vu plus dangereux en équipe de France ces derniers temps, c'est quand il part dans l'axe en profondeur.
C'est ça.
Quand tu as effectivement de l'espace devant lui, surtout. Voilà. Oui. Maintenant, la question, c'est, tu vas sûrement peut-être contre le Sénégal, contre l'Irak, plus assurément être face à un bloc bas, et Mbappé sera sûrement en difficulté pour s'exprimer dans ces conditions-là.
Et encore une fois, quand je parle de réalité footballistique, elle s'arrête pas seulement à un Kylian Mbappé. Et on a parlé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, en 2022, c'est un ailier droit. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a une autre réalité footballistique et il faut être en adaptation par rapport à ça parce que les joueurs évoluent, les joueurs changent. Et donc, tu dois composer avec ces évolutions-là.
Oui, sauf que Dembélé en équipe de France, hein, les stats ne sont pas fameuses, mon cher.
Ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais dans l'absolu, donc, voilà. Dembélé, il a un statut de ballon d'or. Il a un statut
on s'en fout des statuts, c'est pas ça. Ouais, c'est son rendement historique et récent en équipe de France. Oui, mais Nico, et il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain-Elton. Tu parles de réalité de club, justement.
Non, mais tu es obligé, justement, de prendre en compte qu'il y a des statuts de certains joueurs qui ont évolué et que par rapport
toi,
à ça...
Toi, tu es en équipe de France, tu prends en compte les statuts, quoi. Tu fais ton équipe avec les statuts. Toi, t'es un ballon d'or, donc toi, ça va être comme ça. Toi, Mbappé, t'es pichichi.
Bah non, parce que toi... justement, je t'ai pas
dit... c'est pas comme ça.
Je t'ai pas dit qu'Ousmane Dembélé, dans l'absolu, ce serait le numéro 9 de l'équipe de France.
Mais tu as dit qu'il fallait prendre en compte ce qu'il fait en club. Alors
non,
justement, t'as dit
non, j'ai dit qu'il fallait prendre en priorité en compte la réalité footballistique de ces joueurs-là et que aujourd'hui ils ont des zones où ils sont plus épanouis qu'il y a 4 ans. Parce que 4 ans, c'est très très long dans le football et qu'il faut prendre en considération ça.
Bon, on fait une pause dans un instant et bravo, on a très peu parlé de Rayan Cherki alors qu'on va y aller tout droit plein phare maintenant, plein fer surtout. Vous êtes nombreux à en parler sur le chat.
Le conducteur, Nico.
Pour l'instant, on l'a pas dit, mais c'est un vrai débat aujourd'hui. Beaucoup le réclament, je le disais tout à l'heure en début de génération after. Carrément dans le 11 de l'équipe de France. A-t-il tout pour être plus qu'un joker en bleu? Venez en débattre avec nous au 32-16. Merci Souleymane d'être venu sur RMC dans Génération After. Nous revenons dans un instant avec Fabrice, Adem et Elton. RMC, 20h40. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
Jamain. Génération After, RMC, 20h42. Merci d'être avec nous. Nous sommes jusqu'à 22h. L'After dans le relais, prend le relais à partir de 22h. Elton, alors, si vous êtes à Dakar, au Sénégal, sachez que vous pourrez voir Elton en vrai. Ce dimanche, 18h heure locale, 20h heure française, 2h d'after sur place avec Gilbert Bribois notamment, Souley Diawara sera là aussi, les gens du football sénégalais, bordelais, marseillais également. 2h d'émission ce sera 8 jours du France-Sénégal en Coupe du Monde. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est libre. Institut français de Dakar, c'est dans moins de 48 heures désormais, tu seras sur place, Elton. Allez-y.
On va prendre la température avant ce match très important.
Ça va faire une très belle émission, on avait fait une très belle émission à Douala au Cameroun. Ce sera le cas, j'en suis persuadé, dimanche à Dakar. Alors, le sujet, Rayan Cherki, bien sûr. Est-ce qu'il va faire débat ce soir dans Génération After? En tout cas, il a été buteur hier, détonateur, 12 pertes de balles, oui, ça aussi on en parle. Mais il a été l'homme qui a été cherché, trouvé le plus souvent, une façon d'aimanter naturellement les ballons, c'est assez dingue quand même. Sa décontraction, son relâchement sur le terrain, y compris hors terrain, ça aussi on va pouvoir en parler. En termes de communication, c'est fou, la fraîcheur qu'il apporte. 84 ballons touchés, 3 tirs, 92% de passes réussies, donc des déchets à relativiser. Fabrice, contre le Sénégal, dans 11 jours, si ça démarre à 4 devant, Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, c'est la réalité, c'est ce qui va se passer pour toi aujourd'hui?
Doué ou Bradley Barcola, moi je parlerai plus du match contre le Sénégal, qui sera pour le coup là, il peut pas se cacher, il va mettre les meilleurs selon lui, et à mon sens il y aura une attaque avec évidemment Kylian Mbappé, Michael Olise, à voir s'il joue à droite ou dans l'axe, je pense plus dans l'axe pour le moment vu ce qu'on voit, Ousmane Dembélé évidemment, et à gauche à mon sens il mettra Bradley Barcola ou Désiré Doué selon la forme du moment, selon peut-être le profil de l'adversaire aussi. Et en fait la question de Rayan Cherki revient à se demander s'il peut jouer à la place de Michael Olise ou s'il peut jouer à la place d'Ousmane Dembélé. Parce qu'en fait, généralement, ce qu'on voit dans tous ceux qui veulent que Rayan Cherki soit titulaire, c'est qu'ils expliquent que Kylian Mbappé doit jouer à gauche. Mais sauf que ça n'arrivera pas. Donc, ou alors on fait de la fiction et on parle de cette éventualité-là, auquel cas on peut lui trouver une place dans le 11. Ou alors on essaye de se mettre dans la tête de Didier Deschamps, ce qui n'est pas très très compliqué. Kylian Mbappé jouera en numéro 9 et là, il n'y a plus trop de place finalement.
Dembélé à droite, Olise à gauche, Olise dans l'axe et Doué à gauche.
Moi, je suis d'accord avec ça. Malheureusement, Rayan Cherki, ça va rester un fantasme pour tout le monde. Et je pense qu'on va l'avoir dans un rôle d'entrant à la 60e minute, comme on l'a vu contre l'Espagne, en joueur d'impact, en joueur qui doit.
T'aimerais le voir débuter?
Mais bien sûr que j'aimerais le voir débuter. Quand en plus, tu as un Didier Deschamps qui s'est renié, qui a enlevé ce 4-3-3 et qui se lance avec un meneur de jeu, qui de mieux que Rayan Cherki aujourd'hui pour mener ton jeu, à qui donner les clés du camion quand tu as un Rayan Cherki dans ton équipe? Enfin, pour moi, c'est.
Oui, mais Adem, dans une configuration qui Mbappé est à gauche, on est d'accord.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis que ça va rester du fantasme, parce que je suis convaincu malheureusement que Mbappé va rester dans l'axe. On a beau faire les débats qu'on veut, il sera dans l'axe. Et aujourd'hui, quelle sélection peut se permettre de mettre Rayan Cherki sur le banc à part nous en France?
La France, t'as vu la force de frappe qu'on a devant.
Oui, mais c'est pour montrer à quel point quand même le réservoir est grand. Mais aujourd'hui, avoir un joueur de la qualité de Rayan Cherki, quand on joue avec un numéro 10, le mettre sur le banc, moi je trouve ça totalement fou.
Toi, tu sors Olise, tu.
Non, bien sûr que non. Dans la configuration que tu m'as donnée, Nico, dans la tête de Didier Deschamps, pardon, bien sûr qu'Olise et Dembélé sont les titulaires au poste et que Rayan Cherki, comme je dis, sera là dans un rôle d'impact player à la 60e minute.
En revanche, là où il était intéressant, Ryan Cherki, moi j'ai adoré son match hier, je l'ai découvert il y a très longtemps, en Coupe de France, il me semble, contre Nantes, où il avait brillé. Moi, il m'a toujours, c'est un joueur que j'ai beaucoup, j'apprécie, que j'ai toujours apprécié, Ryan Cherki, il n'y a pas de sujet, il est amené à être titulaire à un moment ou un autre dans cette équipe de France. Je pense aussi qu'après Didier Deschamps, il y a un staff qui va arriver, qu'il apprécie aussi beaucoup. Donc, à très court terme, moyen terme, il sera amené à avoir un rôle vraiment, important dans cette équipe de France-là. Après, là où il a gagné des points hier, à mon sens, c'est dans les premiers entrants, parce qu'on l'a dit, le réservoir est grand, le banc de touche est très long, il y a vraiment des joueurs importants et qui sont performants. Si un Désiré Doué est titulaire, ça veut dire qu'un Bradley Barcola est sur le banc de touche. Et je pense que hier, il a gagné des points justement pour faire partie des premiers entrants. Et ça va être important.
C'est pas une réalité avant ce match d'hier, tu penses? Déjà?
Non, je pense que c'est
totalement différent.
Il a été bon en mars aussi. Hein. Non, bien sûr, mais je pense que ça ne gâche rien de continuer à prouver sur les matchs qui sont en train d'arriver, parce que forcément, plus les matchs, plus on va se rapprocher de la compétition, plus les performances vont compter aussi. Hein. Ceux qui vont très bien jouer contre l'Irlande du Nord, si dans la tête de Didier Deschamps ils sont titulaires, même si je pense qu'il a déjà son équipe pour le 16 juin, ça confirme.
Bon, Elton, qu'est-ce que t'en penses toi?
Ouais, pour moi, il y a quelque chose de
rassurant. Et c'est plus qu'un joker.
Non, aujourd'hui, pour moi, en quoi c'est déshonorant d'être un impact player sur le papier?
Je pense au rendement de l'équipe de France et à l'efficacité.
On parle d'un joueur qui a moins d'un an en équipe de France. Moi, il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de sain de voir Ryan Cherki apprendre dans l'antichambre de l'équipe de France en tant que impact player et progressivement monter en puissance, en sachant qu'on n'est pas à l'abri de la jurisprudence Antoine Griezmann à Coupe du Monde 2014 qui démarre sur le banc dans l'absolu contre le Honduras et qui finit titulaire. Ça aussi on peut l'avoir, mais ça reviendrait à dire faire des choix, et quand je dis faire des choix, soit par rapport à ce qu'a dit Fabrice, soit mettre Michael Olise sur le banc, soit mettre Ousmane Dembélé sur le banc.
Moi, Elton, je crois pas à cette antichambre. Tu as le niveau ou tu as pas le niveau. Aujourd'hui, Ryan Cherki, il a 23 ans.
Mais c'est un échantillon.
Mais on s'en fiche. Il y a Lamine Yamal à l'Euro, il a 16 ans et il casse la baraque. C'est donc, à un moment donné, si tu donnes pas la chance à Ryan Cherki de casser la baraque sur le banc, il pourra pas la casser la baraque. Pourquoi attendre 2 ou 4 ans pour qu'il casse tout et attendre qu'il soit peut-être ballon d'or pour le mettre titulaire? Moi, il a le niveau ou il l'a pas.
Factuellement, on lui donne du spot. On lui donne.
Il en a fait quoi de son spot? Contre l'Espagne, il en a fait quoi du spot? Il a cassé l'écran.
Bien sûr.
Mais donc un joueur qui casse l'écran, qui à chaque fois qu'il joue est le meilleur joueur, on va le mettre sur le banc au début de la compétition officielle.
Gueule, hein. Crever l'écran même, j'ai envie de dire. T'as raison. Après tu peux casser l'écran aussi. Hein.
Ouais, crever l'écran.
Ah, j'ai un jingle, je crois. Là.
Attends, une chose. On a Bertrand qui souligne, bien sûr, cet angle-là. On peut pas jouer avec Mbappé qui défend pas et Cherki qui défend presque pas.
Ça c'est une narrative.
Non, faut mais faire attention. Fabrice, tu vois les matchs de Cherki également.
Faire attention sur ça.
Dans le repli défensif.
Pep Guardiola, ça va quand même beaucoup mieux avec Pep Guardiola, Cherki dans le repli défensif.
Il
fait le petit pas, on va dire, à l'image.
Il fait le semblant sur le terrain,
c'est pas
chez lui.
T'attends pas de lui qu'il ait un.
Tu penses qu'il est incapable de le faire sur une compétition comme ça?
Je demande à voir. En fait, on sait pas.
Et donc parce qu'on sait pas, moi j'aimerais tenter le pari dans un 4-2-3.
Non, mais encore une fois, si on était dans un 4-3-3. Adem, le débat c'est pas est-ce que Ryan Cherki est un très bon joueur, c'est pas est-ce que Ryan Cherki peut illuminer un match. On le sait, il est nommé cette saison en première ligue parmi les meilleurs jeunes, parmi même les meilleurs joueurs. Ryan Cherki c'est un top joueur, on le sait, il y a même pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est est-ce que tu mets Michael Olise sur le banc ou est-ce que tu mets Ousmane Dembélé sur le banc pour le faire de la place.
Mais dans ce cas-là, on fait le débat parce qu'on sait très bien avec qui Deschamps va partir en réalité.
Il y a des gens qui pensent qu'il devrait être titulaire et mettre Michael Olise sur le banc. Moi j'en ai vu
ces gens-là, moi j'en ai jamais vu.
Regarde sur les réseaux et regarde un petit peu.
Moi, je pense que Deschamps, il se pose même pas la question et qu'aujourd'hui, sinon, on peut ne pas faire de débat, dire que la compo de départ, ça sera Mbappé en 9, Dembélé à 3,
de l'équipe de France, le logiciel Deschamps et le langage Deschamps et les fantasmes, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure,
Attention,
on parle de France-Sénégal. On n'est pas à l'abri que sur un France-Irak avec un bloc extrêmement bas, il puisse démarrer un match, Ryan Cherki.
Surtout qu'il a souvent changé de composition d'équipe après le premier match.
Après, c'est toujours la même chose. Hein. Deschamps, ça reste un pragmatique, mine de rien, même s'il a beaucoup évolué. Si demain, Ryan Cherki fait une entrée, deux entrées où il est très convaincant, il reste quand même un quatrième spot. Hein. À gauche, il faut aussi que celui qui va jouer, que ce soit Bradley Barcola ou Désiré Doué, il faut qu'il soit très très performant parce qu'à un moment donné, les performances de Ryan Cherki vont compter. Donc ça aussi, je pense que personne dans l'absolu, à part Kylian Mbappé, pour moi, et Ousmane Dembélé, personne n'a sa place assurée devant.
Je vais accueillir Miguel au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Miguel.
Salut.
Bienvenue.
Salut Miguel. Salut.
T'as ton téléphone collé à l'oreille ou t'es en kit main libre là?
Alors maintenant il est à l'oreille, c'est mieux?
C'est très bien comme ça Miguel.
Okay.
Alors Cherki, toi, c'est plus qu'un joker ou pas en équipe de France?
Alors moi, c'est mon avis est radical, c'est un joker point barre et pas plus, et sûrement pas plus en ce moment.
Vas-y.
à contrario de tout ce que beaucoup de gens pensent, hier, son match d'hier, moi, m'a confirmé dans l'idée qu'il fallait pas qu'il commence. Si on décompose le match en deux parties, la première mi-temps avec les gros joueurs d'attaque, si on regarde, il a un peu déjà surjoué à mon goût. Il a touché beaucoup trop le ballon et finalement les relations avec ses partenaires étaient pas fluides. Il va nous tenter une passe derrière la jambe d'appui que finalement les autres ont peut-être pas compris. Pourtant c'est du foot assez élevé si on prend notamment Olise. Au final que même Olise au bout d'un moment finit par dézoner un peu à force de voir Cherki venir dans sa zone et venir partout réclamer les ballons pour les toucher dans les pieds. La seule fois où Olise s'est retrouvé en 10 à la place de Cherki, c'est une passe en un temps, prise d'information précoce, passe en un temps directement pour Mbappé qui conclut pas l'arrêt du gardien. Et plus ça s'est accentué dans le match, c'est à partir du moment où tout le monde est sorti à la mi-temps, en tout cas les gros joueurs, les titulaires en puissance. Et là, en deuxième mi-temps, il nous a fait un festival de « je passe le ballon à 15 mètres, je vais le redemander à 5 mètres pour l'avoir dans les pieds, je fais la même chose de l'autre côté », qui ralentit totalement le jeu. Et mais si on prend nos attaquants et les qualités de nos attaquants, que ce soit Olise, Dembélé, Doué, Kylian Mbappé ou Barcola, c'est des gars qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds, mais qui sont 10 fois meilleurs quand ils arrivent lancés. Le Olise du Bayern, quand il arrive lancé sur son côté, il fait mal. Doué, même chose. Mbappé, encore mieux. Quand il joue à l'arrêt, c'est pas la même chose.
Mais il faut bien quelqu'un pour les servir, non?
Mais justement, le 10, le revival du 10, c'est pas Cherki qui va nous l'amener. Le 10, les derniers 10 qu'on a connus, c'est De Bruyne, c'est dans une autre mesure Modric. Mais De Bruyne, il validait par la passe. Donc De Bruyne, il prenait pas le ballon, il ne faisait pas 4 touches de balle, 2 dribbles avant de lâcher. Il mettait sur orbite. Et ce qu'on attend pour moi d'un 10, c'est de mettre sur orbite.
Attends, un peu réducteur, Miguel. Il sait le faire sur une touche de balle, hein, Ryan Cherki. Il l'a fait à City. Il l'a même déjà fait en équipe de France. Parfois, effectivement, il y a la touche de trop. Certes, et ça, on en parlait hier avec Daniel. C'est sa nature. Faut l'accepter. Tu ne changeras pas.
Je la valide amplement en rentrant, ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure. Impact player. Cette nature-là, ben vas-y grand, mets-nous le bordel parce que là on n'y arrive pas. Ok, pourquoi pas. Mais pas débuter.
D'accord, sur un quart d'heure, 20 minutes, c'est sa fin de match.
Moi, voilà. C'est pour ça que je
oui, après, j'avoue, je te rejoins. Il y aura le frisson hein, quand Ryan Cherki entrera à la 75e.
Non, mais t'imagines, 75e, ça va être merveilleux. Bradley Barcola ou Désiré Doué, Ryan Cherki,
c'est phénoménal. Mais les gars, je prolonge le débat quand même parce que c'est une question un peu provoque que je vous pose. Dembélé, il est incontournable.
Oui,
au-delà des statuts.
Ah oui, ça manque de respect. Ça manque de respect.
Oui. Alors, ok. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a réalisé au PSG, par rapport à son ballon d'or.
L'heure de France Croatie.
C'est incontournable.
Même contre le Brésil.
Les stats de Dembélé, c'est quoi en équipe de France, mon cher Fabrice?
Moi, je te convoque au rassemblement comme pour reprendre la phrase de.
Tu convoques les faits.
Je convoque les faits.
Vas-y,
regarde ce qu'il fait contre la Croatie, regarde ce qu'il fait contre le Brésil encore. C'est un joueur qui non seulement peut être décisif, mais il fait du bien aussi parce que non seulement il peut être décisif, on l'a dit avec l'équipe de France maintenant, et on le voit depuis qu'il est revenu et depuis le début de cette saison, mais de par l'envie, de par l'énergie qu'il met, c'est aussi lui, c'est le seul par exemple des trois qui vont jouer avec Kylian Mbappé, qui peut lui dire vas-y, cours, vas-y,
vraiment un peu.
Comme c'est le seul,
non, je te dis pas qu'il va l'engueuler,
mais c'est le seul qui peut peut-être l'emmener dans un moment où il est peut-être un petit peu moins bien, enfin, de par son statut et de par la relation qu'ils ont ensemble.
Et surtout, c'est le seul où on se pose pas la question s'il va courir ou pas, parce que c'est le seul qui a cet abattage, qui a ça en lui d'aller presser le gardien, qui sera là sur tous les fronts, à droite, à gauche, qui va redescendre, qui va faire les efforts. Et quand on voit Michael Olise, Ryan Cherki, Kylian Mbappé, on a besoin d'un joueur comme ça. Moi, je comprends même pas qu'on se pose la question que si Ousmane Dembélé doit être titulaire dans cette équipe. Pour moi, il doit être le premier nom de la feuille. Je vais être clair avec toi, Nico. Pour moi, Dembélé, c'est le premier nom de la feuille. Et je pense qu'il y a qu'en France.
Devant Mbappé.
Oui. Actuellement, je joue la Coupe du Monde 2026, pas la Coupe du Monde 2018. Donc aujourd'hui, en 2026, celui qui est le plus à même de me faire gagner une grande compétition de par son niveau, de par ce qu'il a démontré et son état de forme, c'est Ousmane Dembélé, c'est pas Kylian Mbappé.
Il a démontré quoi du coup?
Cette saison? Ouais, de Ligue des Champions, ça n'a pas suffi. Marqué en 8e, en quart, en demi, en finale, ça n'a pas suffi.
Il y a les prestations récentes, et il y a l'historique.
Là, ce qui se passe, c'est qu'il a pris la porte de secours et il me parle de PSG. Parle-moi, équipe de France.
J'ai dit que je me basais sur le niveau d'Embélé sur la saison. Donc, de fait, de son club.
Non, mais dans ce cas-là, et on attend de le voir, justement, parce qu'il est sur une bonne lancée depuis le début de la saison. Non, mais il est très bien.
Vas-y, Fabrice.
Depuis le début de la saison,
il a été blessé sur la première partie de saison, donc il y a des rassemblements qu'il n'a pas pu faire, mais dès qu'il était là, tu ne vas pas dire qu'il était décevant avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé.
Non mais là-dessus, on est tous on se tient la main, on est Ousmane Dembélé titulaire en équipe de France. Mais non, il y a ça. On est d'accord, il y a Ousmane Dembélé, on se tient la main, joueur important pour l'équipe de France. Maintenant, il y a ça, et se dire que Ousmane Dembélé, en fait, c'est la garantie pour arriver le 19 juillet.
Mais t'as aucune garantie sur Kylian Mbappé non plus, on n'a jamais de garantie dans le football, ça c'est des bêtises. On ne sait pas qui va marquer, on ne sait pas qui va répondre présent.
C'est le premier nom.
Moi, je suis entraîneur, le premier nom que je mets sur ma feuille de match, c'est le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé en numéro 9. C'est la première chose que je fais dans mon équipe.
Les deux intouchables, c'est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ça c'est arrêté.
Ça oui, mais demain, je te pose une question. Final 19 juillet, tu me dis, tu mets, entre guillemets, ta maison sur soit Kylian Mbappé, soit Ousmane Dembélé. Tu vas sur qui?
Je vais sur Ousmane Dembélé.
Tu vas sur Ousmane Dembélé, sur ta garantie,
très sereinement sur Ousmane Dembélé. Parce que toi, tu prends le problème à l'envers. Tu penses que Kylian Mbappé, tu regardes les vidéos de 2018 et 2022 avec un prisme, malheureusement, de français qui a de belles émotions en repoussant à ça.
Attends, vas-y.
Parce qu'actuellement, Ousmane Dembélé, je suis désolé, mais il est beaucoup plus à même de te faire gagner. Il le fait depuis deux ans. Il a marqué en huitième, en quart, en demi, en finale champion et tu doutes encore de sa capacité à marquer dans les grands événements.
Je vois pas pourquoi on les oppose. Aujourd'hui, l'équipe de France a besoin de ces deux joueurs au très haut niveau, parce que quand on regarde que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les autres grandes nations, elles ont trois leaders d'attaque. Et aujourd'hui, la France a la chance d'avoir ces leaders d'attaque là. Et pour moi, faut pas les opposer. C'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
Voilà, terminé pour l'équipe de France. Merci les gars. Dans un instant, on va parler du Paris Saint-Germain avec Fabrice Hawkins, les infos mercato. Ce sera pas un chantier, ce sera pas une révolution, mais quelques retouches quand même intéressantes. Fabrice va nous en dire un peu plus dans un instant. Vous restez avec nous, avec Adem Jouadi, avec Elton Mokolo. Fabrice Hawkins, c'est RMC 20h57, à tout de suite.
Génération After.
RMC.
Comme du prochain meilleur milieu de terrain, certains osaient des comparaisons avec Zinedine Zidane.
J'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok, c'est très bien, mais à un moment donné.
Sa chaussure.
Sa carrosse, sa chaussure, c'est.
Tu veux dire que je suis finito ?
Non, pas du tout, Walid, mais je dis que dans le cycle de la vie, il faut préparer l'après Walid, ou en tout cas l'avec Walid.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bravo, Adem est avec nous, sa première dans Génération After. Punchline, c'était épisode 1 de la nouvelle star de l'After au stade Jean Bouin.
C'était un bon épisode.
T'avais attaqué frontalement Walid. T'as tout vu ou pas, toi, Fabrice?
Non, j'ai pas vu quasiment tout. Ouais,
quasiment tout.
La finale, cet épisode, je l'avais vu aussi.
Le dernier est en ligne, vous le savez, version montée avec les coulisses depuis 18h sur YouTube. Allez-y, 40 minutes, c'est merveilleux. On s'est régalé sur la finale, beaucoup d'émotions, bien sûr. Et donc, Adem est avec nous ce soir. Alors, le PSG, on profite de la présence de Fabrice qui a signé un papier sur le site rmcsport.fr, notamment sur le mercato parisien. Évidemment, quand tu es supporter parisien, tu te demandes, tu es un peu partagé, tu te dis, est-ce qu'on va maintenir une stabilité alors qu'on va le dire, sur les 6 premiers mois, certains ici même disaient, mais pourquoi on n'a pas recruté, pourquoi on n'a pas anticipé?
Ça fait deux saisons qu'on faisait la même chose.
On tient sur 12 joueurs d'un niveau homogène, ça ne va pas tenir, on va coincer en quart, en demi. Finalement, c'est Luis Enrique qui a eu raison.
Et avec son staff,
ils ont très bien bossé, et Luis Campos également. Est-ce que, en revanche, j'ai en tête, il y a quelques jours, une déclaration de Luis Enrique qui avait dit, il va falloir renouveler un petit peu l'effectif quand même.
Bien sûr.
Le rafraîchir aussi. Est-ce que le mercato 2026 sera différent du mercato 2025?
Oui, parce que, pour moi, il y a eu un mercato qui est vraiment, il était vraiment très à la marge, en fait, la saison passée. Il y a eu deux arrivées, Ilias Zabarni, Lucas Chevalier. Ça négociait d'ailleurs depuis de très très longs mois. Donc, c'était dans les petits papiers, presque en mai. Tu savais quel était le mercato du Paris Saint-Germain. Là, c'est légèrement différent parce qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle, j'ai envie de dire, il y a bout de souffle, qui ont envie de partir, clairement, que le club ne retiendra pas. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, je pense à Kang In-Lee aussi. Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs de niveau, j'ai envie de dire, équivalent, notamment pour Gonzalo Ramos. Je pense pas qu'ils vont amener quelqu'un qui revendique quoi que ce soit. De toute façon, Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit, C'est Luis Enrique qui décide. Mais j'entends par là, je pense pas qu'ils vont remplacer Gonzalo Ramos par un joueur à 100 millions d'euros.
Donc, pour être très clair, pas par un Rolien Alvarez, par exemple.
Non.
Ça, c'est aussi un délire absolu. Ça coûte 100 millions minimum, Rolien Alvarez aujourd'hui.
Un minimum, comme
le PSG les mettra pas. En plus, pour quel rôle au PSG, quoi. Est-ce que lui aura envie de venir pour un rôle de doublure finalement de Ousmane Dembélé? Ce serait ça la réalité. Sauf s'il y a un changement de système improbable selon moi, l'an prochain.
Non, je pense pas qu'il viendra, et pour plusieurs raisons. Pour déjà, il y a le prix, et il y a aussi le fait que aujourd'hui, pour jouer au Paris Saint-Germain, maintenant c'est un grand club, c'est une grande institution, et il souhaite que les joueurs aient envie de venir au Paris Saint-Germain et uniquement au Paris Saint-Germain. Et c'est pas les signaux qu'il a envoyé Julian Alvarez sur ces derniers mois, et c'est ce qui me fait dire qu'à mon sens, il ne viendra pas. Pour parler des joueurs qui sont susceptibles de partir, ou en tout cas pour qui il y a une question, c'est pas parce que je vais les citer qu'ils vont nécessairement partir, mais en tout cas la question se pose aujourd'hui. C'est Nima Youlou qui arrive en fin de contrat en 2027, dont l'année prochaine ça va arriver vraiment très vite. Pour lui, il y a là en fait, il faut choisir. Où il part, où il reste. Mais s'il reste, il prolonge. Et donc, il y a des négociations qui sont en cours et on va voir comment ça va se.
En attendant, chez lui, en tout cas, de ce qu'il voudrait faire ou pas, c'est Nima Youlou.
Lui veut rester.
Il veut rester quand même.
Ouais, lui veut rester. Ensuite, il y a Ibrahim Baye, lui aussi, fin de contrat 2028. Donc, c'est un joueur. Et ça aussi, je pense que les gens ne s'en rendent pas bien compte. Sur le marché des ailiers de rupture qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n'y en a pas énormément. Donc aujourd'hui, Ibrahim Mbaye sur le marché, il y a des clubs qui sont prêts à payer entre 40 et 60 millions d'euros. Donc la question va se poser pour lui aussi, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part? Et puis enfin, Bradley Barcola, qui lui, pour le coup,
alors ça, c'est important.
C'est un très très gros sujet, parce qu'international français, parce qu'il y a des clubs, et des clubs de premier plan, notamment en Première Ligue, qui lui font la cour depuis des années, qui sont prêts à casser la banque. Donc sur ce profil-là, il va vraiment y avoir des sujets. On rappelle simplement, en fin de contrat 2028, il y a des négociations qui sont en cours, j'allais dire depuis 6 mois, mais quasiment depuis 24 mois. C'est ça la réalité pour Bradley Barcola. Il n'y a toujours pas eu de prolongation. Entre-temps, il a changé d'agent. C'est pour ça aussi
qu'on
peut comprendre que ça traîne un peu. Mais il va falloir quand même prendre une décision. Elle n'est pas prise encore.
Lui, on ne connaît pas sa volonté aujourd'hui. Voilà.
Très honnêtement, non.
On ne connaît pas sa volonté. Non. Bradley Barcola qui... Il y a une fatalité pour lui finalement. Il sera toujours derrière les trois.
Au nom de quoi?
Il sera toujours derrière les trois.
Qu'il a aujourd'hui. Décrété. Qu'il a décrété.
Il a un
grand non.
Moi, c'est l'étage en dessous, je trouve.
Non,
c'est en dessous pour toi, Adèle.
Non, moi je suis pas d'accord, parce que encore une fois, on a bien vu que sur la première partie de saison 2025-2026, il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur les barrages.
Il a beaucoup joué pourquoi? Les mecs n'étaient pas là.
Il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur le barrage contre Monaco, il a joué. Je n'oublie pas qu'il a été impactant contre Chelsea, aussi bien au match aller qu'au match retour, et que sa saison, elle tourne parce qu'il y a la blessure causée par Joao Pedro.
Non, et parce qu'il est juste meilleur que lui.
Non, et que par rapport à ça, il y a d'autres joueurs qui, à son absence, c'est vrai, ont été très importants. Mais pour moi, quand on sait qu'on a un entraîneur, Luis Enrique, qui n'est pas dans le conformisme, qui n'est pas dans l'immobilisme, et qui est capable justement de bouger les lignes et de remettre en question certains statuts, je veux dire, Désiré Doué est passé par le banc, Garachea,
oui,
que tout le monde porte connu, est passé sur le banc.
On a vu sur la finale que Zaire Emblak, qui le joueur le plus utilisé, on touche tranquillement quand Fabian Ruiz revient.
On a compris la croyance profonde de Luis Enrique, j'ai l'impression quand même.
On a son 11 type, on le connaît, et moi je trouve que Bradley Barcola, oui, il a été excellent quand on a fait appel à lui, mais je trouve tout simplement qu'il y a meilleur que lui au poste. D'aujourd'hui, il y a un plafond de verre pour Bradley Barcola, surtout techniquement. Moi je le suis, que je ne vois pas pour Kvaratskhelia, à qui je ne fixe pas de limite, à qui je ne vois pas pour Doué, parce que je ne vois pas de limite technique et de plafond de verre à poser à Doué. Alors que Barcola, on a bien vu qu'il stagne, moi je trouve, depuis deux saisons. Il y a eu ces deux buts contre Chelsea où on s'est dit peut-être que, mais j'ai bien l'impression que c'était le coup d'un soir et pas le coup d'une saison.
Pourtant, je te trouve un peu dur avec Bradley Barcola, parce qu'il a un profil atypique, parce que aujourd'hui, justement, je parlais tout à l'heure des ailiers de rupture, des joueurs qui sont capables comme ça d'avaler les kilomètres. On l'a vu d'ailleurs quand il est rentré en finale de Ligue des Champions contre Arsenal, il aurait pu faire mieux sur les deux occasions qu'il a eues, mais en tout cas il se crée ces situations-là, et c'est aussi pour ça sa cote elle est élevée, qu'il y a énormément de clubs sur lui. Tu parles de déchets parfois techniques devant le but, je pense qu'il peut progresser encore.
Au vu de la concurrence, Fabrice,
moi je pense que c'est franchement juste les goûts et les couleurs, et aujourd'hui je suis persuadé que malheureusement pour Bradley Barcola, Luis Enrique préfère Désiré Doué, et ça c'est la réalité, parce qu'en fait il n'y a même pas de sujet. Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, quand ils sont à 100%, ils vont jouer les gros matchs de Ligue.
Désiré Doué, c'est pareil, Fabrice.
Et Désiré Doué, je pense
là aussi aujourd'hui.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est le constat qu'en fait tu fais. Et aujourd'hui, quand tu es Bradley Barcola, moi je sais pas ce qu'il a décidé, je sais pas ce qu'il pense. Mais en tout cas, quand tu es Bradley Barcola, t'es obligé de te poser la question de savoir si tu veux rester, sachant que tu ne joueras pas.
C'est un choix de vie.
Ces grands matchs-là, quand les autres seront là, ou alors est-ce que tu veux tenter une nouvelle aventure? T'as déjà deux Ligues des Champions.
Où tu seras sûrement dans un 11 d'un grand club anglais.
Exactement.
Très certainement, que ce soit à United ou ailleurs, mérite-t-il de vivre une autre expérience ailleurs. Après, Nico, en étant un cadre dans un grand club européen.
Moi, fois, moi,
c'est un choix presque personnel.
J'ai pas envie d'être définitif personnel. Sur un joueur qui a 23 ans, sur un joueur qui, depuis 3 saisons en Ligue des Champions.
Tu trouves qu'il progresse réellement sur l'année passée?
Moi, je n'oublie pas encore ce qu'il faisait en début d'année civile. Et on parle d'un joueur qui conditionne des phases éliminatoires.
Moi, je suis d'accord. Il progresse. Mais malheureusement, peut-être que les autres progressent plus vite.
C'est surtout qu'en fait, il y a d'autres joueurs qui tutoient les étoiles. On parle de Kvaratskhelia comme un candidat au Ballon d'Or. On parle d'Ousmane Dembélé comme d'un Ballon d'Or en titre. Voilà la référence. Voilà, entre guillemets, le niveau. Mais Barcola, je vais pas l'excuser. Enfin, je vais pas l'attaquer parce qu'il n'a pas le niveau d'un Ballon d'Or.
Mais tu sais, Elton, en début de saison, je pense que oui, c'est la saison dernière où il y avait des matchs où c'est vrai que Désiré Doué, il n'avait pas encore tutoyé les étoiles, comme tu dis.
Bien sûr.
Et Luis Enrique, à l'époque, il avait déjà le choix entre les deux. Et souviens-toi qu'il jouait les grands matchs. C'était déjà Désiré Doué. Alors qu'en réalité, rien ne le prédestinait à jouer plus que Bradley Barcola.
Parce que attention,
c'est lui qui était choisi.
Je suis pas en train de dire que Barcola est un mauvais joueur. C'est un top ailier mondial aujourd'hui. C'est un remplaçant de luxe. C'est un remplaçant de luxe pour le Paris Saint-Germain qui a la chance de l'avoir. Mais si je me place en tant que joueur, ce que je ne suis pas, mais si j'étais Bradley Barcola et que je ne suis jamais sur la photo finale, jamais là en finale de Ligue des Champions, jamais là dans les 30 nominés au Ballon d'Or, jamais là au trophée UNFP quand il faut titrer le meilleur joueur de Ligue 1 et que tous mes copains y sont et que même en équipe de France, Désiré Doué est devant toi parce que tu te retrouves derrière lui en club.
Ça va être intéressant d'ailleurs de le voir.
Et ben, si le Bayern Munich toque à la porte, si Liverpool toque à la porte, si Arsenal toque à la porte, je suis à l'écoute des offres, bien évidemment.
Mais moi j'y vais.
Moi, Nico, je dis que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que.
Quand t'as gagné deux Ligues des Champions, quand même.
C'est non, bon, ça y est.
Et tu peux aussi faire l'histoire. Et
moi,
je
te dis pas qu'il faut qu'il parte,
Je dis sincèrement qu'aujourd'hui, 45 matchs titulaires au PSG.
C'est pas les bons matchs.
C'est mieux que 65 matchs dans un autre club.
Mais c'est une frustration pour Barcola. Il fait début de saison. Les mecs se pètent l'un après l'autre. Il fait le boulot. C'est lui qui marque. Saison dernière, jurisprudence également. Même cette saison.
Mais début de saison.
C'est lui le meilleur buteur du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Et dès que ça devient intéressant et important.
Et parce que pourquoi? Parce que malheureusement, il y a un fait qui est très important et que vous oubliez. Il y a cette blessure contre Chelsea qui redistribue les cartes. Et en son absence, il y a des joueurs.
Mais Adam, il a raison. Achraf Hakimi, il a joué titulaire quand il est revenu en finale de Ligue 1.
Non, mais parce qu'Achraf Hakimi, il a un autre statut. Il a un statut de titulaire qui est beaucoup plus affirmé.
L'année dernière,
jusqu'au. Il n'y a personne derrière.
En plus.
Sur les saisons précédentes, il y a une saison où on arrive en janvier, le meilleur buteur de Ligue 1 est Bradley Barcola. Et pour autant, il pose ses fesses sur le banc le reste de la saison. Donc tu vois bien qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Il se retrouvera sur le banc. Il y a des statuts au Paris Saint-Germain.
C'est comme ça.
Les gens veulent nous expliquer qu'il y a une concurrence tout à fait loyale au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vrai. Il y a un type. Non, ce n'est pas vrai. Quand Zaire Emery, le meilleur joueur du PSG sur les 6 derniers mois, et qui finit sur le banc de touche parce que Fabien Nunes revient, et d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une plutôt mauvaise finale, tu vois bien qu'il y a des statuts à respecter aujourd'hui.
Non, mais
que certains joueurs.
Des joueurs qui servent à piquer les cadres dans l'esprit de.
Vous parlez d'une concurrence déloyale dans l'absolu contre Monaco, c'est Désiré Doué qui était sur le banc. Contre Chelsea au match aller, c'était Kvaratskhelia qui était sur le banc. Ça, c'est la concurrence des loyers.
Non, c'est contre le Bayern. C'est quand il revient de blessure, il est sur une très belle dynamique. Et c'est vrai que certains regrettent qu'il n'ait pas eu sa chance.
Non, mais contre le Bayern, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Liverpool qui a assis notamment Kvaratskhelia sur un statut encore plus important, Désiré Doué qui a été très impactant. Et donc, forcément, ça conditionne la perspective de Luis Enrique sur le court terme. Parce que quand tu vois une équipe
Concernant, mais juste comprends ceux qui se disent, Bradley Barcola, vu de cette saison, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux finalement?
Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour être titulaire?
Le problème, c'est que t'arrives dans une équipe qui déjà a remporté deux Ligues des Champions des suites et qui a un niveau qui est tellement haut.
Le niveau de Kvaratskhelia et de Doué et de Dembélé est plus haut que le niveau de Barcola.
On n'est pas en train de te dire que c'est Gonçalo Ramos dans l'esprit de Luis Enrique, mais il est incontestablement le quatrième parmi les choix offensifs de Luis Enrique. Même quand il est bon, qu'un mec remet juste de blessure, il
récupère sa place. C'est un défi qui est très compliqué, mais de là à partir et aller dans un projet où t'es pas forcément. C'est
quoi sa place, franchement?
Moi, je resterai.
Quand tu connais ton niveau, quand tu sais que tu peux être un cadre dans un grand club européen, tu ferais quoi? Tu
resterais? Spontanément, je resterai parce que j'ai
23 ans. Pour la vie parisienne, tu resterais, toi.
Hein? Oui, c'est ça,
pour les sorties, hein, les restos.
Là où Fabrice te croise en soirée, passer 2h du mat, c'est ça?
Alors, ça, je sais pas d'où viennent ces infos.
Je sais pas d'où viennent non plus.
Elles viennent de toi ou de Fabrice, hein, voilà.
Mais non, mais moi, je resterai parce que déjà, moi, je parle d'un joueur qui a 23 ans, qui a déjà démontré sur 3 saisons, qui était un joueur tout à fait dimensionné pour impacter.
Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, il y en a 3 devant.
Il faut qu'il profite.
En tournant où, là? En tournant.
Aurélien est avec nous.
Aurélien est avec nous. 32-16, supporter parisien, il va essayer de trancher ce débat. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Bienvenue sur RMC, heureux de t'accueillir.
Salut Aurélien.
Génération After. Adem, Fabrice et Elton sont à l'écoute. Quel est ton point de vue, toi, concernant Barcola? Après, on va parler d'autres cas individuels, notamment celui de Marquinhos avec Fabrice.
Bah, moi, concernant Barcola, justement, on a parlé de plafond de verre et ça me fait penser un petit peu à Ousmane Dembélé. Il y a quelques années, on lui attribue un petit peu ce plafond de verre. Il avait un gros potentiel, mais il avait un problème, par exemple, à la finition. Il faisait souvent des mauvais choix, justement, dans le dernier carré. Et pour moi, Bradley Barcola, il est exactement dans cette même optique. Et pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus haut potentiel actuellement dans le football mondial et on l'a dans notre effectif. Donc je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Il faut aussi se rappeler que quand Kylian Mbappé est parti du PSG, c'était lui qui avait pris entre guillemets les rênes dans la première partie de saison. C'est lui qui avait scoré le plus, qui était le joueur le plus décisif. Après, entre temps, Désiré Doué, bah il a réussi à éclore et à développer un petit peu tout le potentiel qu'il avait en lui. Mais pour moi, Barcola, il a un potentiel qui est pas encore exploité à 100%. Et pour moi, si on le laisse partir, c'est prendre le risque de voir exploser un petit peu comme on a pu voir avec Hugo Ekitike entre autres. On a souvent fait cette erreur-là au PSG. Et pour moi, Bradley Barcola, c'est typiquement le même type de cas. Donc pour moi, ça serait une erreur de le laisser partir, sachant que déjà, pour trouver une doublure de cette qualité, ça va être très compliqué.
Ça, c'est sûr.
Vous l'avez dit aussi, prendre un joueur qui va venir au PSG avec le statut actuel du PSG, double champion d'Europe, donc il faudra qu'il accepte éventuellement de ne pas être forcément titulaire. À combien, dans quelles circonstances. En fait, il y a trop d'inconnus aujourd'hui pour se priver de Bradley Barcola.
Oui, mais il faut compter sur la volonté de Bradley Barcola, Aurélien.
Exactement.
C'est celui qui va décider de son avenir.
Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, et ça fait maintenant depuis 2 ans qu'ils ont mis ça en place, un joueur qui ne souhaite pas rester au Paris Saint-Germain, on lui montre la porte de sortie, évidemment, à la condition qu'un club vienne avec la somme réclamée par le Paris Saint-Germain.
C'est quoi sa cote aujourd'hui,
pour le moment, Bradley Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir, c'est ça aussi. En tout cas,
si demain il
tapait à la porte du directeur sportif ou du président en disant toc toc, j'ai envie de m'en aller, c'est une certitude qu'il n'y aurait pas de chiffres. Tout à l'heure, on parlait de ce que réclament Leipzig pour Diomandé autour de 130 millions d'euros.
C'est dingue.
Moi, je pense que on va être dans les mêmes ordres de chiffres.
Non, mais voilà, justement, parce que Nico, la vérité, c'est que si Bradley Barcola est sur le marché des transferts, tous les clubs de la super élite européenne tapent à la porte du PSG. Et pourquoi je dis ça?
Et c'est déjà le cas.
Oui, parce que la vérité, c'est que.
C'est moi, je ne parle pas de son niveau.
Non, mais le PSG, pour moi, se tire une balle dans le pied parce que Fabrice, il nous a dit avec justesse le fait qu'on est dans un poste sinistré.
Ils ne veulent pas faire partir
le poste d'élite.
Ils subissent la décision d'un joueur frustré.
On est dans un poste sinistré. Et donc, toi, en gros, tirer sur un poste sinistré, mettre plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui serait moins bon que Bradley Barcola, ça n'a aucun sens.
Mais ce n'est
ça
pas le choix du club. Le club, s'ils avaient le choix, ils le prolongeraient, Bradley Barcola.
Mais totalement, le club veut le prolonger. Le club
donc
veut
à un moment donné,
le prolonger.
Si la porte elle est ouverte, c'est juste pour ne pas répéter les erreurs du passé avec Kylian Mbappé notamment. On ne veut pas forcer les joueurs à rester. Donc Bradley Barcola, s'il pense que l'herbe est plus verte ailleurs et que pour sa carrière, le meilleur est d'aller en Angleterre, au Bayern ou je ne sais où, eh ben le club va ouvrir la porte et trouver un remplaçant.
Le jour où la porte est ouverte, effectivement, tu as tous les plus gros clubs européens.
Bien sûr, mais elle est encore totalement ouverte, hein, parce que Bradley Barcola, aujourd'hui, tu le poses la question, il te dit pas je vais partir. Donc
bon, voilà. Alors, vas-y Aurélien.
Oui, non, c'était ça en fait, ce que je voulais soulever, c'est lui, il n'a pas émis concrètement le désir de vouloir partir, il veut jouer, je pense, titulaire, mais comme je sais pas qui l'a souligné tout à l'heure, je crois que c'est Elton, au moment de la phase finale où on doit prendre, où on prend Chelsea, je trouve qu'il fait une très belle performance, et c'est vrai que sa blessure, en fait, elle lui coupe un petit peu l'air sous le pied, et donc du coup, ça lui permet pas de renchaîner. Pour moi, Barcola, vraiment, c'est... Je ne vais pas dire le copier-coller de Dembélé il y a quelques années, mais on s'en rapproche. Mmh. Et avec Luis Enrique comme coach, je pense qu'il peut faire passer un palier à ce joueur-là. Et je pense qu'il est conscient de ça.
Alors, lâchons le cas Barcola, les amis. Il y a un cas aussi qui est un peu épineux, celui de Marquinhos, qui a été porté au nu sur la fin de la saison, notamment après la finale des Champions, pour le symbole qu'il représente, les valeurs qu'il véhicule, le brassard, bien sûr, l'homme qui a lutté, la résilience depuis maintenant quoi 11 ans au PSG,
13 2013,
bientôt 13 ans.
13 ans bientôt au Paris Saint-Germain.
11 mois précisément.
Il est pas si vieux, il a 31.
32.
Ça y est, il les a eu les 32.
Je me pose une colle, mais
normalement,
je pense que oui.
Ouais, il les a eu.
Normalement 32. Ouais.
Qu'est-ce qu'il veut faire
mai dernier.
Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Qu'est-ce qu'on compte faire avec lui aussi? Est-ce qu'on repart dans l'idée, le syndicat repart dans l'idée qu'il est titulaire en charnière aux côtés de Pacho la saison prochaine encore une fois, alors qu'on a vu certaines limites parfois cette saison?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est son âge, tu l'as signalé, parce que dans l'esprit des gens, on a l'impression que Marquinhos, il a 40 ans. Marquinhos, c'est la 32 ans.
Oui, mais sur le terrain, tu ressens aussi
mais au plus haut niveau, Thiago Silva, c'est
une légère régression.
Tous ces joueurs-là ont joué jusqu'à 36 ans au très très haut niveau, et aujourd'hui, bon, c'est vrai que parfois il est un petit peu moins bien, c'est pour ça, physiquement, je parle. parle. C'est pour ça aussi que, si vous remarquez bien, Lucien Riquet l'a beaucoup fait jouer en Ligue des Champions, beaucoup moins en Ligue 1, pour justement conserver cette fraîcheur-là aussi. Lui, qu'est-ce qu'il veut? A priori, pour le moment, il veut rester au Paris Saint-Germain. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie parce qu'ils respectent le joueur qu'il est, parce qu'il a encore montré cette saison qu'il pouvait rendre des services et qu'il pouvait être performant dans des matchs à très haut niveau et à très grosse intensité. La question, en fait, c'est de savoir est-ce qu'ils vont recruter ou pas. Et pour le moment, s'ils ne sortent pas à Barnier et que Marquinhos ne souhaite pas partir, ce qui est la tendance, bah, il n'y aura pas de recrutement à ce poste-là.
Moi, je ne comprends pas le procès qui est fait à Marquinhos chaque été. On a l'impression, comme tu l'as dit, Fabrice, qu'il a 45 ans et qu'on doit le mettre à la retraite. Sauf que quand tu regardes les matchs importants de Ligue des Champions qu'il a eu à jouer, contre le Bayern, il a été très très bon. Contre Liverpool, c'est lui qui fait le sauvetage, on se rappelle, sur le corner face à Van Dijk. Sur la finale, on va en parler de son but, mais ce ricochet-là, n'importe quel défenseur aurait pu le faire. Ça, c'était juste pour essayer de lui mettre le maximum de responsabilité sur les épaules pour le sortir. Moi, Marquinhos, aujourd'hui, tu peux te permettre de ne pas le faire jouer en Ligue 1, comme ça a été le cas. Tu peux le garder au frigo pour les grandes soirées de Ligue des Champions. Pourquoi Marquinhos serait moins performant la saison prochaine que ce qu'il n'a été cette saison? Surtout que, même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, Marquinhos a été très très bon dans les momentum importants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et surtout, il a une importance prépondérante dans le vestiaire. Et dans une équipe où il y a énormément de jeunes, une moyenne d'âge de seulement 25 ans, avoir un taulier comme ça dans le vestiaire, ça ne va pas être remplacé avec des millions d'euros.
C'est un monument qui est respecté par tous les joueurs, par le staff, par les salariés du club, qui est très apprécié. Alors vous me direz, ça fait pas une fois qu'on a dit ça, c'est pas ce boulot-là qui fait, entre guillemets, à l'extérieur du terrain, qui va le permettre d'être performant sur le terrain. Mais ça compte aussi dans un club comme le Paris Saint-Germain. C'est vraiment lui le garant de l'institution. D'ailleurs, vous regardez bien, depuis que le Paris Saint-Germain a évolué sur ces dernières années, il est vraiment mis en avant, alors qu'il pourrait mettre en avant sur certaines campagnes publicitaires les Doué, les Dembélé, les Hakimi. C'est vraiment lui qui est le garant de ce vestiaire-là.
Quand tu regardes les célébrations à chaque fois des victoires en Ligue des Champions, il est avec le président tout le temps.
Tant qu'il peut être performant, je pense que le Paris Saint-Germain, je suis sûr même, ne le mettra pas à la porte.
Et on a vu la gestion par Luis Enrique d'une saison entière pour Marquinhos. La Ligue 1, c'est même pas 30% de titularisation. Il compte sur lui uniquement.
C'est pour ça que pour moi,
Ligue des Champions. Luis Enrique, il a une gestion possible encore sur une voire deux saisons peut-être.
Luis Enrique, il a trouvé un cheat code sur la gestion de Marquinhos. Ça redistribuait les cartes, parce que moi, autant en fin de saison dernière, je me disais que voilà, tu pouvais envisager la sortie de Marquinhos, mais est arrivé notamment cette gestion particulière où on a beaucoup plus un Marquinhos en qualité qu'en quantité. Et ça te donne quoi? Ça donne un Marquinhos qui est déterminant sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et je vais même te dire quelque chose. Ça favorise aussi la transition, l'intégration d'un Zabarni. Parce que, en fait, si tu fais partir un Marquinhos, t'accélères, entre guillemets, l'intégration d'un Zabarni.
Tu vas responsabiliser Zabarni tout de suite.
Exactement. Et là, Zabarni, là, sa saison, elle est certes contrastée, mais ça porte pas à conséquence, précisément parce qu'il y a un Marquinhos. Et moi, je me dis que dans la réflexion de la politique sportive du PSG, le fait d'avoir un Marquinhos de qualité, ça peut aussi couvrir l'investissement d'un Zabarni en te disant, OK, sur la première saison, il n'a pas été extraordinaire, mais sur la deuxième saison, il peut monter en puissance parce qu'il y a Marquinhos.
Moi, le débat, il serait plus sur une doublure à Pacho, parce qu'on voit que Beraldo est passé maintenant doublure en numéro, poste de numéro 6, que Pacho joue tous les matchs, quasiment, sans exception. Donc moi, la question, ça serait peut-être d'aller chercher un central gauche pour soulager un petit peu Pacho. Mais la question du central droit, pour moi, étant donné que Zabarnier est là et l'investissement qui a été mis sur lui l'été dernier, pour moi, c'est un faux débat.
Bon, tu parles de côté gauche, axe gauche de la défense du Paris Saint-Germain. Parlons de latéral gauche également, Fabrice. C'est une des infos, un élément de réflexion au PSG. En tout cas, que faisons-nous à Paris avec Lucas Hernandez? Le PSG cherche une doublure à gauche.
Oui, le PSG cherche une doublure à gauche.
Donc, s'il cherche une doublure, ça veut dire que
profil
terminé pour Lucas Hernandez.
Comment
ça veut dire ça?
Mais non, ça veut dire
Lucas Hernandez. Quoi, tu m'écris,
tu vois les infos, tu me dis. Ils ne vont pas dire non, reste. Voilà. Mais non, mais c'est un joueur aussi qui est très respecté, très grand professionnel. Vous l'avez vu quand il rentre en Ligue des Champions, qui joue 2 minutes, 10 minutes, qui joue pas du tout. Il est dans l'esprit. Donc, c'est quand même un joueur.
Il kiffe sa vie à Paris, tout va bien. Le salaire est énorme.
C'est un joueur qui le club a du respect. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il respecte le club et le club le respecte aussi. Donc, il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre. Maintenant, il y a une réalité. C'est que si un joueur avec ce profil-là arrive, c'est-à-dire gaucher, plutôt jeune, donc on imagine aussi performant, qui va essayer de gratter du temps de jeu, aller gratter les chevilles de Nuno Mendes, pourquoi pas, de Pacho aussi. On comprend bien que mathématiquement, il y en a un qui va en faire les frais et ce sera Lucas Hernandez. Donc après, ça va être comme pour Donnarumma la saison passée. On lui a expliqué que Lucas Chevalier allait arriver en numéro 1. C'est où tu restes, mais tu vas pas beaucoup jouer, où tu t'en vas chercher du temps de jeu ailleurs.
Surtout qu'on a vu avec Luis Enrique, Lucas Hernandez peut jouer ce poste de central gauche, sauf que Luis Enrique ne le considère absolument pas comme un central. Donc si un arrière-gauche arrive, malheureusement pour lui, ça a l'air d'être la fin.
Exactement. Alors, beaucoup de questions également concernant Elie Kroupi Junior. Si c'est lui que le PSG a tiré dès cet été, après son excellente saison à 12 buts en Première Ligue.
13 même.
Il est passé à 13, oui.
Ouais, 13. Saison.
Merci Elton. Est-ce que c'est une réflexion ou pas, Fabrice, et les Crépus Juniors, plutôt qu'un Julian Alvarez qui semble préférer aller au Barça?
Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, appréciés aussi par la direction sportive, par Luis Enrique. Et en fait, pour pas exciter les gens, il faut leur dire la vérité. Je pourrais vous dire aujourd'hui que oui, le Paris Saint-Germain va aller recruter Junior Croupi, mais la réalité c'est que un, j'en sais rien, et deux, on ne sait pas si vraiment ils vont activer la piste. Est-ce que c'est un joueur qu'ils apprécient? Oui. Est-ce que c'est un joueur qu'ils vont activer? Non. Moi, des noms de joueurs qui sont pas sortis, qui sont appréciés par la direction sportive, j'en connais, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller dessus. Et c'est comme ça tous les étés. Donc, il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui. Mais en tout cas, oui, c'est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais il est apprécié par. Je vous mets au défi de me citer une direction sportive qui n'aime pas aujourd'hui.
C'est le Golden Boy, c'est l'attraction du marché estival avec Julian Alvarez, et ça en dit long sur sa considération, parce que à partir du moment où tu as marqué 13 buts en Première Ligue, ça t'envoie sur un autre monde. À partir du moment où t'as contribué au fait que Bournemouth soit 6e de Première Ligue, bah forcément tu vas être très attractif, pas seulement du côté des clubs anglais, mais surtout du côté des clubs européens. Il est en plus de nationalité française, donc forcément ça va être l'attraction du mercato. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose, Nico, c'est que son futur investissement de transfert va d'une certaine manière le protéger et donc redistribuer des cartes. Je veux dire, par là, si tu l'amènes à 100 millions d'euros, c'est pas pour jouer des éléments de composition.
Ça aussi, c'est une autre question. C'est pas pour, bien sûr que si, parce qu'aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, quand on parle de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, on parle depuis tout à l'heure du probable, du possible, si jamais il souhaite s'en aller et de Bradley Barcola. Mais on parle de tout ça pourquoi? Parce que justement, il a un temps de jeu qui est insuffisant. En tout cas, il pourrait peut-être prétendre à plus. Élie Junior Croupi, s'il arrive au Paris Saint-Germain, qui coûte 50, 100 ou 150, c'est pas pour ça qu'il va prendre la place de Désiré Doué.
Il a coûté 65 et pourtant il a posé ses fesses sur le banc.
Étonnant à croire qu'à son âge il acceptera dans un premier temps.
Attention, je suis pas fermé sur ça parce que.
Les Coupes Juniors ?
Non, j'y crois pas. Parce que
t'arrives au PSG du bon championnat d'Europe.
Il a le vent en poupe, il a tous les grands clubs anglais sur.
Il faut aussi te dire que Élie Croupi, il a le choix du roi. Il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner sur lui. Il a envie d'avoir un statut de titulaire.
La difficulté pour moi dans ce dossier réside aussi dans la négociation qu'il va y avoir entre Bournemouth et le club qui va l'accueillir. Parce que la réalité, c'est que Bournemouth, ils veulent pas le vendre. Ils jouent une Coupe d'Europe et ils en demandent autour de 100 millions d'euros. Est-ce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est prêt à payer 100 millions d'euros sur ce profil-là? C'est un très bon joueur, il y a rien à dire. Mais est-ce qu'ils sont prêts à lâcher 100 millions d'euros? Ça va être une vraie question. Et la question va aussi se poser pour Yann Diomandé, dont on parle beaucoup.
Bon, Yann Diomandé, là, ici, 12 buts, 9 passes cette saison en Bundesliga, révélation ivoirienne du championnat allemand. Quant à Élie Croupi, même s'il vient, je disais, en doublure un peu rapidement, il aura beaucoup de temps de jeu, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain, avec l'alternance Ligue 1, Coupe, Ligue des Champions
temps,
également.
Il peut accepter.
Il fera ses 20 matchs comme titulaire s'il vient ici, et puis il marque pas ses 12-13 buts. Mais il n'est pas là, encore loin de là, même si beaucoup le réclament sur le chat de la chaîne YouTube de l'After.
Il sera là, hein? Je n'ai pas dit qu'il ne viendra pas, hein. Je dis que pour l'instant, il n'est pas là.
C'est ça, pour l'instant, il n'est pas là. T'es là, t'es pas là. Dans un instant, on va parler du Real Madrid, le cirque, je me régale, les pop-corns, la campagne présidentielle entre Enrique Riquelme et Florentino Pérez. Tout le monde envoie des promesses intenables. On va se marrer, on va en parler avec Thibaut Leplat dans un instant en direct de Madrid. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Fabrice Hawkins qui se prépare pour la Coupe du Monde. La valise est prête, Fabrice, ou pas encore? Toi, c'est le genre de mec à la faire deux dernières heures avant le départ, non?
Exactement.
Ah, ben voilà, tu vois, j'ai connu les gars.
Mais quand
t'es
quelqu'un de simple, Nico, tu mets
des t-shirts. Il arrive à l'aéroport, mince, ça coûte 350 euros à l'aéroport, tout est plus cher. Et il passait en note de frais en plus.
Oui, mais c'est toi qui m'as dit.
Elton Mokolo est là également ce soir, Adem aussi. On est ensemble jusqu'à 22h, la dernière demi-heure de Génération After, avant de passer le relais tout à l'heure à Maxime Chano, Lionel Charbonnier et Karine Galli pour l'After jusqu'à minuit. Alors, on accueille une grande voix de l'After historique. Thibaut Leplat est avec nous. Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Salut les gars, salut camarades, ça va bien?
Heureux de te retrouver Thibaut en direct de Madrid. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes, donc ne coupons pas Thibaut, sinon ça va être la cacophonie. Alors Thibaut, on est heureux de t'avoir pour parler d'un sujet qui est proche géographiquement de toi, qui est proche aussi je pense en termes d'intérêt journalistique, la campagne pour la présidence du Real Madrid. Un régal nous à suivre à distance en tout cas, franchement je disais c'est popcorn. Les deux candidats envoient des promesses folles. D'un côté, je précise le contexte, le président sortant, mythique, légendaire à Madrid, Florentino Pérez, 78 ans, et en face son concurrent, Enrique Riquelme, 37 ans. L'élection, c'est dimanche. Première élection d'ailleurs, nous on découvre un peu l'ambiance depuis 20 ans pour prendre la présidence du Real Madrid. C'est à qui fera les plus grandes promesses Thibaut. Raconte-nous comment c'est vécu là-bas. On dirait quasiment une élection politique, hein, avec des vrais candidats. Ça fait beaucoup parler à Madrid, j'imagine.
Bah, c'est comme une élection présidentielle. Hein. Vous avez deux candidats, vous avez des programmes, vous avez des promesses. Alors là, cette fois-ci, les promesses, c'est Haaland d'un côté, c'est Dumfries de l'autre. Vous avez des programmes. Bah, certains, ça va être pour Florentino, ça va être de continuer à faire ce qu'il fait. Il a quand même gagné cette Ligue des Champions. Bon, donc on va dire que le bilan est plutôt positif pour lui. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté, vous avez un concurrent moins connu, plus jeune. Plus moderniste, qui va dire il faut moderniser le club, il faut amener des nouvelles têtes, et qui lui, par la particularité d'Enrique Morente, parce que Pérez tout le monde le connaît, Morente il y a encore deux semaines personne ne le connaissait en Espagne, hein, c'était vraiment un inconnu. Et bien il arrive, il promet de faire venir des stars comme Haaland, et en même temps de faire revenir les anciens glorieux brouillés avec Pérez, comme Iker Casillas, comme Fernando Hierro, comme Vicente del Bosque aujourd'hui, qui a dit qu'il soutenait cette candidature et qu'il participerait. Donc petit à petit l'inconnu dont tout le monde se moquait un peu au début est en train de prendre de la place, beaucoup de place dans les médias aussi. Et on est curieux de voir ce qui va se passer, quoi. C'est un peu comme les élections présidentielles.
Il a une chance de gagner
au début,
ou pas réellement,
tout a l'air très clair, et puis au fil.
Thibaut, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il a une chance de gagner? Je te demandais, Enrique Riquelme.
Ouais, je t'entends, c'est juste que je veux pas te couper, donc.
Vas-y.
Il a une chance de gagner, il faut voir, on sait pas. En tout cas, il était, on prédisait un plébiscite pour Florentino Pérez, et puis petit à petit, les espèces de sondages qu'il y a, parce que c'est pas très clair les sondages qu'il y a, c'est des médias qui les font, tout ça n'est pas très très un peu artisanal quand même. Ce qu'on constate, c'est que la campagne de Pérez est en train de devenir beaucoup plus agressive. Alors peut-être certains ont vu passer à un moment lors d'une émission, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, sur El Hormiguero, qui est la grande émission que tout le monde regarde en Espagne, où l'invité star c'était le Enrique Morente, qui venait dérouler son programme et qui venait expliquer un peu
Morente
qui
était. Riquelme, comment l'appelle,
fin de l'émission. Enrique Riquelme, Enrique c'est son prénom, et Riquelme c'est son nom de famille.
D'accord.
Et donc dernier, il termine l'émission, merci, au revoir messieurs dames, etc. Et premier écran de pub, Pérez qui annonce l'arrivée de José Mourinho avec une espèce d'animation un peu étrange où il avait acheté en fait l'écran de pub juste derrière l'émission pour pouvoir damer le pion à son concurrent. Voilà l'ambiance quoi.
Bon, ça c'est l'ambiance. Et puis il y a des promesses là, on va se poser dessus. Et Fabrice, on est content de t'avoir à nos côtés pour nous dire si c'est réalisable ou pas. C'est un délire absolu.
Bah, déjà il y en a un, il fait des promesses et qui sont démenties dans la foulée.
Enrique Riquelme annonce un ticket Rodri Haaland. Le père d'Haaland dans la folie, mais c'est quoi ce délire? On est où en fait là?
Il a démenti le démenti, Riquelme, depuis. Hein.
Il a démenti le démenti.
Pour dire que oui, il fallait protéger le joueur, mais que ça allait se faire quand même.
C'est incroyable. Franchement, c'est
après,
les deux là.
Il a présenté aussi des documents signés devant notaire.
Vas-y, continue Thibaut.
Pour justifier et authentifier le fait qu'il avait un accord avec Haaland et Rodri.
On l'a compris, un petit décalage avec Madrid. On se marche un peu dessus. Écoutons notamment ce que propose Florentino Pérez. C'était également en direct à la télévision espagnole. Regardez.
Je vais prochainement faire une offre à un club important de Ligue des Champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur. 150 millions au moins.
Alors, les médias espagnols disent... C'est clair, c'est Michael Olise. Voilà. Parce que lui, cite beaucoup de joueurs, il dit non, c'est pas lui. Mais il ne cite pas Michael Olise, en l'occurrence, Florentino Pérez. Ça aussi, ça fait beaucoup réagir. Quelle est la réalité de tout ça? Tu l'as pas forcément, mon cher Thibaut. Mais surtout, ma question, c'est est-ce que les socios du Real qui vont voter dimanche, ben, c'est pas des gogos quand même, ils ont assez d'expérience pour comprendre que tout ça, c'est du vent.
Non, mais attends.
Que ce soit Enrique Riquelme ou Florentino Pérez.
Pas totalement. Parce qu'en fait, il fait des promesses quand même. Il y a de la suite dans les idées du côté de Florentino Pérez. Quand il dit qu'il va ramener José Mourinho, c'est la réalité. D'ailleurs, le Benfica a déjà communiqué pour dire que le Real Madrid a fait une offre.
C'est réalisable, Mourinho, tu peux le dire.
Oui, non, mais justement. Fabrice. Non, mais quand tu dis c'est n'importe quoi des deux côtés, bah, pas totalement. Parce que, de la même manière, le Real Madrid est sur Ibrahima Konaté. Il l'a promis, Florentino Pérez. Denzel Dumfries, les Néerlandais, nous disent tous que.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils affirment que s'il est président, il viendra. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. Tu connais mieux que moi les négociations sur un mercato, surtout à ces hauteurs-là, pour un mec à l'Elysée. Ouais. Pas les gens pour des idiots.
Attends,
non plus.
Non, mais il y a deux choses.
L'autre, il dit c'est signé.
Signé. Il y a deux choses. Il y a d'un côté Mourinho, Konaté, Dumfries. C'est du domaine du réalisable. Je pense que ça va aller au bout quasiment pour les trois dossiers. Konaté, faudra être sûr, faudra regarder les derniers détails, parce qu'il y a d'autres clubs aussi. Et Michael Olise, où là c'est totalement différent, parce que Michael Olise, et je l'avais dit, je me souviens en mars, dans un papier sur rmcsport.fr où on parlait notamment de Liverpool et de comment est-ce qu'ils allaient remplacer Mo Salah. Si demain on apprend qu'il y a 150 millions d'euros à mettre pour récupérer Michael Olise, je peux vous dire que l'ensemble des directions sportives des grands clubs, que ce soit à Paris, Liverpool, Arsenal, tout le monde va se mettre sur le dossier. Michael Olise, c'est aujourd'hui l'ailier ultime, c'est celui que tout le monde veut. Donc c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il ait déjà un accord avec Michael Olise, et encore plus avec le Bayern Munich qui a dit qu'il était intransférable.
Non, mais Fabrice, là, tu mets les formes, c'est un effet d'annonce. C'est un effet
d'annonce. Oui, c'est ça. Non, mais totalement.
Parce que aujourd'hui.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Mais là où il est fort, pour terminer là-dessus, là où il est fort, Florentino Pérez, c'est qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux. L'autre, j'ai l'impression que.
Non, mais aujourd'hui, je suis satisfait du fait que Florentino Pérez va faire une offre mardi à un club qui peut faire. Bah, on a vu, on refuse. Et voilà, l'histoire est
s'en fout. Il a déjà fait des promesses, Thibaut, Florentino Pérez, dans le passé, qu'il n'a pas tenu. Il s'en fout.
Il y a un précédent célèbre, vous avez peut-être vu le documentaire sur Figo. Il se fait élire comme ça, Florentino Pérez, il arrive comme ça, challenger, personne, il sort de nulle part, il se présente contre Lorenzo Sanz qui vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions, qui avance les élections comme lui, et il dit, je vous amène Figo, personne ne le croit, il dit, bah, s'il n'est pas là, je vous rembourserai votre quota de sociaux. Figo lui-même dément dans la presse barcelonaise, et finalement Florentino est élu et Figo est obligé de venir. Vous avez peut-être vu le documentaire, c'était en 2000. Figo vient, il a fait une tête d'enterrement au moment de la présentation, parce qu'il s'est fait un peu piéger par Florentino et l'agent de Figo, et du coup il est venu. Donc ici ils disent, si ça avait été avant, ils connaissent le précédent Figo, ils savent que tout est possible en fait, et qu'il y a peut-être quelque chose de vrai, quoi. Donc voilà, faut prendre en compte cette idée que il y a un peu de cirque, mais en même temps, c'est un club où par définition tout est possible. Quoi.
Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que les deux projets sont catastrophiques, parce que dans les deux projets, c'est la course aux stars, alors que ça fait déjà deux ans que tout ce qui ne va pas au Real Madrid, c'est cette accumulation de stars, et on veut en rajouter encore plus pour se faire élire. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que les socios apprécient ça. Donc je pense qu'on est peut-être un petit peu sadique du côté du Real, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, et on veut encore empiler des stars. On envoie 150 millions, et en plus Florentino Pérez dit au moins 150 millions d'euros. Donc il commence l'enchère à 150. Donc ça peut-être aller beaucoup plus haut, 180, 200, parce que s'il y a...
Vous lisez 150 millions,
oui, t'as raison,
au moins. La sémantique, le choix des mots est maladroit. Au moins 150 millions, parce que on peut aller beaucoup plus haut.
Si Yann Dumandé c'est 130, si Barcola c'est 130, bah Michael Olise c'est au moins 200.
Ouais. 300 même.
Sauf que Michael Olise,
parce que pour Pérez, plus c'est cher, plus ça l'intéresse, parce que c'est de la pub. Donc lui, il dit, et pour le socio, 150 millions, c'est bien, mais le Real, c'est le plus grand club du monde, il doit acheter ses joueurs le plus cher possible. C'est pas, tu vois, c'est pas Lorient ou Ajaccio, pardon, avec tout le respect que j'ai pour les supporters ajacciens et l'Orientais. C'est un club où la somme fait la pub, fait la grandeur du club. Donc plus c'est cher, mieux c'est, en fait.
Florentino Pérez, c'est soit c'est gratuit, ou alors on...
Oui, il envoie de la brillance, de la paillette.
Non,
il en
justement,
faut,
mais... j'ai une question à poser à Thibaut. T'as beaucoup écrit sur Florentino Pérez et globalement sur Real Madrid. Qu'est-ce que ça dit, notamment ce que fait en ce moment Florentino Pérez en 2026 sur lui et globalement sur l'entité, le modèle qu'il met en avant?
Alors, en fait, il y a vraiment là dans cette élection l'enjeu, c'est qu'on a un monsieur qui a 79 ans, qui veut pas lâcher le club, qui a pas du tout préparé sa succession, qui gouverne le club un peu en solitaire avec son directeur général, Rosensel Sanchez, qui n'a pas de directeur sportif, qui a un lien direct avec les joueurs, qui a épuisé 4 ou 5 entraîneurs en très peu de temps, plus de 50 millions de commissions, plus de 50 millions juste d'indemnités pour les entraîneurs. Et en face, on a un challenger beaucoup plus jeune qui, paradoxalement, essaie de renouer avec une forme de tradition du Real. Hein, celui qui défend un peu le modèle international, on va se développer, on va privatiser une partie du club, parce que ça, c'est un grand enjeu de l'élection, c'est Florentino Pérez. Et celui qui veut revenir un peu aux sources du Real avec les anciens et surtout pas privatiser le club, garder le statut associatif, parce que le club, c'est, le Real, c'est une association, hein, il peut pas lever des fonds comme une entreprise, ben c'est plutôt Enrique Morente. Donc c'est vraiment deux choix un peu. Tu vois, dans une élection présidentielle, on dirait deux choix de société. Bon, bah ben là, c'est un peu la société, mais au sens
c'est ça. Privé. Et terme, Enrique Riquelme, pour être précis aussi, il appuie là où ça fait mal pour Florentino Pérez. Le bilan récent Real Madrid, l'absence de Madrilène pour la première fois de l'histoire en sélection pour la Coupe du Monde, sélection espagnole. Il appuie également sur l'envie de faire revenir des joueurs espagnol, en tout cas au Real un peu plus. Faire venir un DS, parce qu'il dit c'est absolument hallucinant qu'il n'y ait pas de directeur sportif au Real Madrid.
Il veut que ce soit Raoul.
Et il veut que ce soit Raoul, il est malin. Hierro, directeur du centre de formation, ce sera le cas s'il est élu. Il sait jouer sur la corde nostalgique également, quoi.
Non, forcément. Mais moi, j'ai l'impression.
Il a des atouts, quoi.
Moi, peut-être que je dis une énorme connerie, mais j'ai l'impression que le vieux lion, entre guillemets, Florentino Pérez, ils vont en Enrique Riquelme, le jeune lion qu'il a été. À savoir celui qui a commis le sacrilège, c'est-à-dire s'attaquer au chef suprême, celui dont on pensait qu'il n'avait pas quitté la présidence du Real Madrid, qui a pas peur d'annoncer notamment des transferts grandiloquents type Erling Haaland. Et moi, j'ai vu dans sa communication du côté de Florentino Pérez, qui limite, faut le voir les interviews, il le dédaigne, il le critique, il le dédaigne très clairement en disant que voilà, Enrique Riquelme, voilà, sa fortune, elle n'est pas si importante. J'ai l'impression que il y a un début de quelque chose qui m'intéresse du côté du Real Madrid et notamment son modèle de gouvernance, son modèle de présidence.
Mais ce qui est vraiment il faut comprendre que le Real, pardon, excusez-moi, faut comprendre que les élections au Real, le Real, c'est l'équivalent d'un ministère. Enfin, c'est quelque chose qui est très important en Espagne. C'est une institution très importante. Donc, qui est soumise à plusieurs types d'influences. Et il y a des courants dans le club. Et des courants politiques aussi également, politiques au sens large du terme. Vous avez certaines entreprises qui soutiennent Florentino Pérez, d'autres non. Et on soupçonne la candidature concurrente d'être, en fait, en sous-main des envoyés d'une autre entreprise qui est pour la cité qui est la grande concurrente de Florentino Pérez, qui est Iberdrola, qui est le fabricant d'électricité en Espagne, et lui soupçonne en fait que c'est envoyé par ses concurrents pour lui nuire dans les affaires. Donc il faut bien prendre en compte qu'il y a comme ça plusieurs courants et qu'à l'intérieur du club il y a beaucoup de déçus, il y a beaucoup de gens qui sont tombés en disgrâce du club, hein, tu as cité tous les anciens, voilà, ça, c'est pour les sociaux du Real, on voit tous les jours, pour les sociaux du Real, l'énigme c'est quand même pourquoi Raoul n'est pas dans le club, pourquoi Hierro n'est pas dans le club, pourquoi Del Bosque n'est pas dans le club, ça c'est, alors ce sont vraiment des légendes absolues.
Et Thibaut, tu me disais tout à l'heure quand je t'ai appelé, il a beaucoup d'ennemis à tous les niveaux, Florentino Pérez, il a l'UEFA contre lui, on rappelle qu'il était même associé qu'il était clairement associé au projet Super League, avec la direction du FC Barcelone
encore
aussi.
Que ça, s'est calmé récemment.
Ça s'est calmé récemment, effectivement, mais certains n'oublient pas, et il appuie là-dessus également, Enrique Riquelme, quoi.
Il y a un paradoxe, c'est qu'avec Florentino Pérez, il s'est fait élire, et pendant encore très, très longtemps jusqu'à ça, jusqu'à encore avant, je dirais avant 2020, la politique de Pérez, c'était toujours d'avoir une forme de gentleman, non? Être un gentleman, parler avec tout le monde, de s'embrouiller avec personne, parce que le Real était au-dessus de tout et il fallait absolument représenter cette institution centenaire et être à l'auteur de cette institution. Avec le conflit Super League, conflit avec l'UEFA, avec le conflit avec la Liga, Javier Tebas et l'ensemble des clubs espagnols, hein, la quasi-totalité des clubs espagnols, le conflit avec les arbitres, le conflit au moment du Ballon d'Or, rappelez-vous, les joueurs du Real qui repartent au dernier moment, alors que le Ballon d'Or était l'une des grandes fiertés de ce club-là. Il y a eu une évolution, une espèce de radicalisation de Florentino Pérez qui a un peu interloqué en se demandant, on est passé d'un club le plus respecté du monde au club le plus ridicule du monde.
Ouais, l'élégance du Real éternel qui est devenu un club parfois hautain et grossier, quoi.
Quand on entend parler Thibaut, on comprend que c'est une élection qui est tout sauf sportive. Au lieu de se concentrer sur les problèmes de l'effectif actuel, avec l'accumulation de joueurs au même poste, avec des joueurs qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années, les joueurs historiques en Valverde, Tchouaméni, c'est des joueurs qui ont gagné, qui n'ont peut-être plus aussi fin que des joueurs qui pourraient arriver. On parle d'accumulation de stars, là, tout simplement.
Thibaut, merci, c'est un régal t'avoir retrouvé dans l'after également. C'était très intéressant d'évoquer la dimension politique, culturelle. Nous, on hallucine en France. Alors effectivement, il n'y a pas d'élection à proprement parler pour la présidence du club.
Il y a un énorme
mais
loupé.
C'est fou.
Il y a un énorme loupé.
Culturellement, c'est très différent de ce qu'on vit nous.
Il y a un énorme loupé. Il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a pas eu notamment de débat entre les deux
alors,
candidats.
Ça, Thibaut, on sait ou pas c'est
il a refusé. Florentino a refusé parce qu'il est très mauvais en débat.
Il a voulu faire Jean-Michel Aulas, quoi.
Il est très mauvais. Il a refusé parce qu'il est très mauvais en débat. D'ailleurs, il se rappelle une campagne de 96 où il avait été opposé à Ramon Mendoza. Il avait été ridicule face au président de l'époque. Et depuis ce jour-là, il a toujours refusé les débats télévisés.
Merci Thibaut. Thibaut Leplat.
Merci à vous les gars. Bonne soirée.
Embrasse la famille à Madrid. À très vite, mon cher Thibaut. Dans un instant, tiens, on a 10 minutes pour que Adem nous raconte sa soirée à Rotterdam. Vous savez ce qu'il est allé faire à Rotterdam cette semaine?
Non.
Il est allé voir Pays-Bas-Algérie.
Magnifique.
Et l'Algérie a battu les Pays-Bas. Fin de série pour les Pays-Bas qui restaient, je crois, sur 11 matchs sans défaite.
Hâte d'entendre ça.
Énorme hold-up. On peut le dire ainsi, hein. Petit braquage quand même.
Non, ça a été totalement mérité. Match maîtrisé, tu t'es
maîtrisé, bien sûr.
On est rendu pour la Coupe du Monde.
Que peut espérer l'Algérie sur ce mondial? Reste avec nous dans un instant, on en parle avec Adem, Elton et Fabrice.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez, la dernière ligne droite de Génération After, avec Adem Djouadi, avec Elton Mokolo, avec Fabrice Hawkins, sur RMC, 21h50. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, je voulais qu'on parle de ce succès, après avoir parlé du succès ivoirien sur l'équipe de France, succès algérien sur les Pays-Bas. Vrai perf sur le papier, en tout cas 1-0 sur place, but de Hadj Moussa qui entre en jeu en deuxième période, qui fait beaucoup de bien. Les Pays-Bas restés sur une série de 11 matchs sans défaite, qualifiés évidemment pour la Coupe du Monde. On va les suivre. Victoire qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer depuis. D'ailleurs, mardi, on fera un vrai thème, un gros thème sur le niveau des sélections africaines. Sont-elles rapprochées ces dernières années du niveau des cadors européens, notamment, et sud-américains? Que peuvent-elles espérer sur ce mondial, même si elles sont toutes, bien sûr, à des niveaux de forme disparates et différents? Mais l'Algérie peut-elle être une surprise? En tout cas, on en parle maintenant. Tu étais au stade, hein, à Rotterdam?
Ouais, mardi, j'y étais.
C'est un kiff ou pas?
Franchement, l'ambiance, ouais, très belle ambiance, à part les stadiers qui nous ont fait rentrer 15 minutes avant le match. Mais ah ça, ouais, c'est une petite aparté, je pense qu'ils ont fait exprès. Mais sinon, non, très très belle ambiance en tribune et surtout un beau match, un plutôt beau match.
Plutôt beau match, avec une grosse domination néerlandaise, évidemment.
Oui, sur une grande partie de la rencontre, les Pays-Bas ont dominé, mais il y a quand même eu de belles phases de jeu de la part de l'Algérie. On a vu une équipe avec des idées, avec beaucoup de cœur, et le seul hic dans cette soirée, c'est la composition de départ.
Voilà, c'est Petkovic. Voilà.
Parce que, Petkovic, il y a des belles idées, on veut repartir de derrière, d'être gardien de but, ça, une, deux, trois touches, oui, mais par contre, des joueurs comme Riyad Mahrez, des joueurs comme Oussem Aouar ne sont clairement plus dans le coup, ils sont clairement dépassés, et quand on voit des joueurs comme Maza sur le banc, comme Hadj Moussa, et quand je pense à un Kebal qui ne va pas à la Coupe du Monde pour faire de la place à Mahrez, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'aujourd'hui, Riyad Mahrez, malheureusement, n'est plus au niveau. Quand Hadj Moussa est rentré, on a l'impression que c'était Mahrez, mais en x2, parce que Mahrez ralentit le jeu, malheureusement.
C'est dur à dire ça.
C'est dur, mais c'est la réalité. Depuis la CAN, c'était déjà le cas à la CAN. Ah oui. Malheureusement, j'ai l'impression que personne n'ose vraiment dire que Mahrez est un problème dans cette équipe aujourd'hui. Dans la construction de cette nouvelle génération, moi, il fait tâche, Mahrez.
Il fait tâche. Alors, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il aura un rôle différent. C'est sûr qu'il est très proche de Petkovic. C'est le relais également du sélectionneur. On l'a vu à la CAN. Hein, quand il sort, il est bord terrain et Petkovic en train de donner des consignes aux joueurs. Il a un tel statut, bien sûr, immense. 4 fois nommé Ballon d'Or, vainqueur de la CAN 2019, qu'on a du mal à l'imaginer effectivement sur le banc pour débuter. Alors j'en parlais avec des confrères algériens qui me disaient pourquoi pas jusqu'à l'heure de jeu, après il cède sa place.
D'accord, mais il peut être déjà trop tard en réalité.
Mais tu perds 60 minutes de jeu, c'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait tu te forces à faire jouer un joueur qui aujourd'hui.
On ne prend plus à une fulgurance, même sur coup de pied arrêté.
Oui, mais si tu me fais jouer un joueur en attendant un coup de pied arrêté, c'est pour dire quand même le niveau qu'il a.
Arsenal le fait. T'as raison.
Il pourrait
collectivement t'es pas aussi efficace, quoi. Alors, ce qui est énorme, c'est Lucas Zidane, qui était un petit peu discuté lorsqu'il a fait le choix de l'Algérie à l'époque, qui finalement a été désigné numéro 1 juste avant la CAN. Il a enchaîné les matchs, blessé en fin de saison avec Grenade. Il joue avec un masque énorme, et là il y a un effet Donnarumma, t'as l'impression, la blessure et tout. Le mec, il fait le match de depuis son arrivée en sélection algérienne.
Non, il faut dire qu'il y avait un vrai vraiment qu'à ce poste de gardien, et que Lucas Zidane, il arrive
numéro 1 désormais, ça y est.
Oui, il est numéro 1, ça c'est assumé, je pense qu'il va jouer la Coupe du Monde, ça c'est une certitude. Maintenant, faut pas oublier que dans cette équipe d'Algérie, il y avait un gros manque à ce poste, qu'il y avait pas de talent qui émergeait, et que Lucas Zidane, il arrive parce que c'est la sélection qui, c'est la fédération, pardon, qui fait la démarche d'aller le chercher parce qu'il y a un problème à ce poste-là. Et en tout cas, sur le match de mardi, il a fait un vrai bon match. Il a été rassurant pour sa défense, que ce soit dans les airs ou sur sa ligne. Honnêtement, il a fait vraiment un très, très bon match. Et je pense qu'il a sécurisé définitivement sa place pour la Coupe du Monde mardi soir.
Bon. Voilà pour ce petit point rapide, hein. On va en traiter, vous l'imaginez bien, pendant toute la durée de la Coupe du Monde, au moins sur la phase de groupe. L'Algérie, attention, hein, qui va démarrer par Argentine.
Ouais. Gros match.
17 juin, merveilleux.
Le match que beaucoup
mais c'est bien de les prendre maintenant, les Argentins.
Tout le monde attend, ouais.
Les prendre sur un premier match.
Oui, un peu comme l'Arabie Saoudite, voilà, au Qatar.
Ouais, et puis ça va monter en pression, en puissance, doucement. On le connaît avec
c'est
des moteurs.
On prendre en troisième quand ils sont déjà qualifiés aussi.
Ouais, t'as pas tort, même si t'as intérêt à terminer premier, hein, dans ce groupe, hein.
Le deuxième, normalement, prend l'Espagne, ensuite en barrage.
Ben, donc, c'est ça. C'est ça. Tu prends, le deuxième prend l'Espagne.
Et ou l'Uruguay, si tu finis.
Ça va passer.
Non, je suis confiant.
Ouais. Jordanie, deuxième match, et Autriche pour l'Algérie. On sera là pour les commenter, bien sûr. Merci Elton Mokolo. Merci Fabrice Hawkins.
Avec
t'es
régalé,
Fabrice? C'était cool?
Ouais, j'adore.
Tu bosses ce week-end?
Oui,
tout le temps. Tu bosses tout le temps. Téléphone à la batterie, il travaille.
Ah oui,
ça, évidemment. Alors, tu prends pas si bien. Et ça, c'est cool. Merci Adem.
Merci à vous.
Plaisir de t'avoir. T'as kiffé ta première?
Incroyable.
Vraiment?
Ouais, vraiment. Ça fait vraiment plaisir d'être là et c'était vraiment une très très belle première. J'ai kiffé le moment.
Tu n'es plus un auditeur désormais. Ouais. Tu es un intervenant, un débatteur, éditorialiste dans Génération After et dans l'After. Voilà, c'est terminé dans un instant. L'After à partir de 22h avec Karine Galli, Maxime Chano et Lionel Charbonnier. Restez à l'écoute d'RMC. Bonne soirée à tous. Bye bye.